C'est à nous.
C'est à vous.
C'est vous qui faites le travail. Hein. Moi, je suis là pour lire des trucs, les journaux, mais la vie de la chaîne, les commentaires, les réactions, c'est vous. Hein. Sans vous, y a rien, il se passe rien. Bon, je suis trop gentil, là. Faut que je casse des bouches après. Là. Enfin, je peux pas être gentil comme ça tout le temps. Mon pote a DM Samuel Etienne pour savoir si on pouvait jouer à Valorant en étant stagiaire chez lui. Joli Twitter. Joli X, je m'en régale. Il y a un mec qui tweet. Mon pote a DM Samuel Etienne pour savoir si on pouvait jouer à Valorant en étant stagiaire chez lui.
J'adore. Quel bonheur. J'adore.
Il a répondu quoi, Samuel Etienne? Il répond pas, il a pas le temps. Il a une vie de fou, Samuel Etienne. C'est une machine. Attends, je suis en train de voir, il y a Mathieu qui a mis un extrait du sample de dimanche soir avec Trixie pour dire que le replay était... J'ai l'impression que ça rigole. Attends, on va l'écouter. J'ai l'impression que ça rigole pour dire que le replay était dispo.
Plus. Ah oui, non mais là, il fait chaud.
Il fait chaud là.
Ah crasse.
Ouais. Bon, on s'en fout du jour, on va picoler.
Trixie va offrir une bouteille de Prosecco, je crois. Et c'est vrai qu'on a pris un verre, On a quand même l'air bourré. Hein. Parce que j'étais intrigué parce que Mathieu avait tweeté le sample sur Cyberpunk 2077 est en ligne, mais le jeu, on s'en fout. Bon, ça a bu un verre. Un verre. Enfin, un verre. Trixie a fini la bouteille. Non, c'est pas vrai. C'était plus de trois verres. Non, j'ai bu à peine un verre. Puis deux, puis trois. Non, des petits fonds. Il y avait trois fonds comme ça fait à peine un verre en vrai. Ça fait un dixième de verre breton. En Bretagne, on a des verres plus grands. C'est pour ça, c'est ça notre problème, nous. Vous, ça va, vous? Ça finit en bière pong. Et en plus, t'enchaînes avec ton whisky chaud au réveil. Oui, gros loulou, mais ça, c'est pour la gorge. Le whisky chaud au réveil, c'est pour la gorge. C'est pour, j'ai un mot du médecin. Je suis allé le voir ce matin, c'est pour ça que la revue de presse est partie un peu plus tard ce matin. J'avais rendez-vous à 9h30 chez mon médecin, qui est une femme médecin du sport qui est incroyable. Et elle me dit, je suis en pleine forme. Voilà. Elle me dit, vous êtes toujours le petit whisky chaud le matin pour l'atout, tout ça? Je dis oui. Elle me dit, continuez, les stats sont impeccables. Si, ça va mieux. Je tousse beaucoup. Oui, j'ai tousse quasiment plus. Il est 10h30. Ben oui, je sais. J'étais chez le médecin avec mes analyses et tout. Elle est très sympa. Elle m'a dit, monsieur Étienne, pour un homme de 95 ans, vous êtes en pleine forme. Félicitations. Je lui ai dit, comment ça pour un homme de 95 ans? Bah, elle me dit, vous auriez 50 ans, par exemple. Je dirais, oulala, c'est chaud. Mais pour un homme de votre âge, en plus, vous marchez sans déambulateur, vous êtes alerte, plutôt vif. Je lui ai dit, mais pourquoi vous parlez fort comme ça? Non, parce que je sais que vous n'entendez pas très très bien. Non, mais en vrai, je suis en forme. Merci, Weirdo. Oh, j'ai pas remercié les sous. Merci, Weirdo. Merci, Tac. Merci, Jojo Lambrouille. Merci, Cyphernory. Merci, Dusting. Merci, Eotil. Merci, Tibbs. Merci, Petite Tulipe. Merci, Le Brady Petit Pulltime. Merci Jean-Jérôme. Merci Free. Comment va mon ami Free Skatozer? 31 mois d'abonnement. Merci mon ami. Merci Red Crows. À l'instant. Salut Moumou. Reine des Mouettes. Tu peux reprendre ta carrière à zéro pour refaire 42 années? Ah non. Moi j'attends la retraite moi. Est-ce que j'ai fait ton toucher rectal hebdomadaire? Andreas, ton médecin te fait un toucher rectal chaque semaine, Andreas? Chaque semaine, ton médecin te fait un toucher rectal. Il t'a dit que c'était nécessaire. Ouais. N'hésite pas à aller voir la police quand même. Ouais. Ou alors c'est toi qui as demandé, je sais pas. T'inquiète, Alexandra, tout va bien, t'es la meilleure. Est-ce qu'on peut avoir ton médecin? Moi aussi, j'ai besoin de me faire prescrire de l'alcool. Antoine 2, passe en DM, je t'envoie ça, mon chouchou. Il n'y a aucun problème. Merci, Wardo. Un an d'abonnement, nom de Dieu. C'est beau, ça. Assez épaté la vitesse à laquelle tu as switché du café au thé. Alors j'ai arrêté le café, Poulidor, mais pas pour le thé. Ceci est du whisky chaud, dis-je en cachant l'étiquette. Ceci est du whisky chaud, c'est le secret de ma forme. Je le tiens très bien. Mais en vrai, historiquement, je tiens très bien le whisky. Merci Colin, ou Colline, merci pour le soutien. Ah oui, Irish Coffee sans coffee. Merci de lancer un live au moment fatidique où je commence à réviser. Bah non, Jean, bordel, mets-toi sous ta révision. Pour le coup, moi aussi, j'ai besoin de toucher recto. Ça va, Théo, tout va bien? Ouais. Ah, j'ai pas de code promo pour Boulanger Mix, désolé. Mais c'est les soldes chez Boulanger en ce moment. T'as point d'exclamation Boulanger, tu vas avoir la page des soldes. Merci, Shinkin, tu régales, merci. 14 mois, putain, j'adore de voir que vous êtes là pour certains depuis si longtemps. Merci à Ebco pour le 8e mois. Salut Chinois Maléfique, que j'ai beaucoup lu hier soir sur Cyberpunk. Merci pour ton accompagnement hier soir. Ça m'a fait plaisir. Salut Samuel, pour la 9e fois, je me fais refuser en process final par manque d'expérience dans ma recherche de CDI, VIE. VIE en plus, t'as fait un VIE? 23 ans, bac plus 5 en alternance, bah, tout va bien, continue. Tu aurais des conseils à donner pour tous les jeunes qui galèrent à trouver un premier job? Ah, c'est dur. Ah. C'est chaud. Je vais te donner un conseil de merde, t'es prêt? Bon, d'abord, évidemment, de ce que tout le monde te dit, de chercher, d'être prêt à bouger, d'être mobile, de ne pas hésiter à relancer. Et moi, le conseil de merde que je vais te donner, c'est de ne pas avoir peur au tout début de baisser des prétentions. Le premier taf, il est dur à choper. Sauf circonstances exceptionnelles, le premier taf, il est dur à trouver. Je me rappelle, moi, je garde toutes les lettres de refus de toutes les rédactions qui m'ont refusé au tout début, quoi. Pour que je me souvienne bien à quel point c'était difficile. J'ai gardé ça dans un classeur à la maison. Cher monsieur, merci beaucoup de l'attention que vous portez à notre société. Nous sommes, hélas, au regret de vous informer que nous ne recrutons pas actuellement ou blablabla, blablabla, au tout début. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à débuter dans ce métier, le journalisme, qui est un métier un peu bouché. Et en fait, pour pouvoir commencer à bosser, j'ai baissé mes prétentions. Alors, je rêvais d'une grande rédaction nationale, je suis allé dans une toute petite radio, en région, très loin de ma région d'origine, toute petite radio, tout petit salaire, voilà. Mais eux, ils voulaient bien me faire bosser. Voilà. Et encore, ça a été chaud. Mais voilà, c'est pas fou, le job était pas fou, le salaire encore moins. À l'époque, je voulais me payer mon permis moto, j'avais pas de quoi me payer mon permis moto. Chaque mois, j'avais de quoi bouffer, voilà. Et puis, donc, c'était pas fou, mais c'était une première expérience. Et la première expérience, elle permet après, parce que là, il faut être mobile, il faut pas rester dans ce premier job où tu vas baisser tes prétentions. Justement, il s'agit d'acquérir la fameuse expérience qui te manque tant. Et puis, au bout de 10 mois de ce premier job, qui était un CDI pourtant, du coup, j'ai démissionné pour une autre aventure parce que, parallèlement, je cherchais le coup d'après. Et cette première expérience m'a permis d'avoir le coup d'après et ainsi de suite, quoi. C'est toujours fait comme ça, quoi. Donc, c'est un conseil de merde parce que, en fait, il est pas foufou, mais voilà. Et puis, il faut pas, hélas, pas avoir peur au début de bosser pour une entreprise que tu trouves pas incroyable, un poste que tu trouves pas incroyable, avec des gens que tu trouves pas incroyables, un salaire que tu trouves pas incroyable. Il y a un moment où tu vas pouvoir choisir. Il y a un moment où ton expérience va te permettre de pouvoir choisir le lieu où tu bosses, avec qui tu bosses, éventuellement à quel salaire auquel tu vas bosser, mais pas trop au début, quoi. Donc voilà, moi c'est le conseil que je te donnerai. Falcon, Cyberpunk, j'ai beaucoup aimé. Je suis infirmière, je recherche un nouvel emploi pour me changer de mon lieu actuel. Ça fait 8 mois que j'ai que des refus. C'est faux, Anaïs. C'est chaud, Anaïs, hein, c'est chaud. Hein. Blatt Strogon, salut Samuel, je suis en galère pour ma recherche d'alternance en journalisme. C'est encore plus dur. Hein. Cherche une alternance dans un secteur bouché. Pardon, hein, j'adore ce métier. Hein. Le journalisme, c'est un des plus beaux métiers. C'est mon métier, j'adore. Mais ça a toujours été un métier bouché. C'est toujours un métier qui a attiré plus de gens que ce métier pouvait intégrer. Chaque année, il y a, je dis n'importe quoi, il y a 2,1 jeunes qui veulent faire ce métier et il y a 0,8 postes. Depuis toujours. Alternance, tu demandes à des boîtes qui n'embauchent pas si éventuellement elles peuvent te prendre dans l'alternance. C'est un enfer. Franchement, je dis pas que c'est impossible. Tu vas y arriver. Mais c'est dur, quoi. Donc, bon anniversaire par ailleurs. Envoie-moi un DM sur Twitter. Mes DM sont ouverts, Blaise Rogon, avec ton CV et tout. Je vais essayer de le transmettre. Mais c'est chaud, en vrai. C'est un beau métier, mais moi, je me rappelle de mes débuts. C'était vraiment galère. C'était vraiment dur. Et je pense que c'est encore plus dur. Samuel, je t'aime, tu ressembles à Pascal Feinduno. Je sais pas qui c'est. Pascal Feinduno. J'espère que c'est pas un acteur porno. Hein. Pascal Fein. Ah, c'est un footballeur. Ça va. Je ressemble à Pascal Feinduno. Les cheveux ? Le sourire ? Il y a un truc ? La calvasse ? Ah, la calvasse ! Ok. Ah, ok. Mon Joe, comment vas-tu, Joe ? Ça va ? Hey, Joe, je voulais t'envoyer un message ce matin avant de lancer le live par WhatsApp. J'ai oublié, je voulais dire que le PC tournait comme une horloge en ce moment. Je le bourre de jeux, là. Hier, j'ai lancé Cyberpunk, qui est quand même un jeu réputé pour être un petit peu lourd. Il tourne comme une horloge, notre vieux, là, notre vieux, avec sa petite carte graphique 3070, là. Ouais, impeccable. Voilà. Ce soir, on lance The Forest, nouveau jeu. Donc, ce soir, on fait un petit live avec Anna et Sunday. Ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé tous les trois. Voilà. Ouais, là, par contre, le petit gâteau d'acquisition, là, il est en train de rendre l'âme. J'ai voulu commander, mais il se fait plus, celui-là. Donc, j'ai commandé la génération d'après, le X, mais je suis pas sûr qu'il marche. Je le reçois aujourd'hui, normalement. Puis j'ai acheté un autre truc et le gâteau, mais je crois que ça marche pas. Voilà. Et donc ce soir, du Forest. The Forest, ce soir, Framboise. Je crois que c'est un jeu qui fait un petit peu peur. On est à trois. Avec Anna et Sunday. Et puis, cet après-midi, j'ai un rendez-vous encore chez le médecin, un autre médecin. Parce qu'à mon âge, on va chez le médecin. Non, pas The Forest 2, The Forest. Ouais, Cyberpunk avec la 3070, ouais. Petit jeu de survie, ouais, c'est ça, voilà. Je crois que ça fait peur un peu. Et cet après-midi, donc je vais chez le médecin à 14h30, je crois, 14h30 de nouveau. Il y a un monde, je suis de retour à 16h ici. J'ai pas trop de boulot, je me suis occupé de tout. Petit valo cet après-midi, peut-être. On est peut-être sur... Il y a Joe qui va m'engueuler, il me dit arrête, tu vas te fatiguer et tout. Il y a un monde où on fait un triple stream aujourd'hui. Merci Juroskov pour le 36e mois, c'est beaucoup. Hein. Merci Majou pour le 2e mois. Merci à Epco pour le 8e mois. Merci encore Shinkin. Il y a un monde où on fait un petit valo cet après-midi. Pourquoi ? Pour découvrir le nouvel agent. On va pas vraiment jouer, on va découvrir Terro. Que tal ? Comment te llamas ? Me llamo Terro, hombre. Voilà. Donc Terro et ce soir, donc Forest, ça ferait 3 streams. On va se le médecin pour moi. Bah non, en ce moment j'ai le masque. Je promène avec le masque en ce moment. Samuel, est-ce que tu sais comment France Télévisions recrute des comédiens ou des figurants sur leurs séries ? Bah, c'est pas France Télévisions qui recrute, c'est les boîtes de prod. France Télévisions, comme la plupart des chaînes, elles font rien en propre. Elles commandent des choses à des boîtes de prod, les émissions, les séries. C'est les boîtes de prod qui embauchent. France Télévisions n'embauche pas de comédiens ou de figurants. Comme les grandes chaînes ne fabriquent plus grand chose en fait. Elle commande à des sociétés de production qui, elles, fabriquent. Il y a encore des choses en direct, comme l'info, des certains trucs comme ça. En vrai, moi, mon émission Question pour un champion est diffusée sur France Télévisions, mais je travaille avec Fremantle, qui est le producteur. Si tu cherches à te faire embosser par France Télévisions comme acteur, ça va pas le faire, en fait. Samuel, j'ai rêvé que tu étais mon oncle, me dit Clo-Clo. L'oncle ? L'oncle gênant ? L'oncle bourré ? Qui a un petit vote un peu bizarre quand il faut aller aux urnes ? Cet oncle-là ? C'est chaud, en vrai. Ou l'oncle un peu sympa, un peu cool, qui essaye de tenir au courant. Framboise, le début des tests de nouveaux agents après Terro, tu en as plein à mieux comprendre, découvrir, je sais, mais je suis un gros flemmard. Merci Petit Tonnerre de Brest pour le 4e mois, merci 1924 pour le 26e mois. Tu ne travailles pas ? Non, Alex Jack, jamais. Non, non. Moi, je suis quelqu'un qui ne travaille jamais. Merci Druscap pour le 20e mois, et merci pour le gentil message qui va avec. L'oncle foufou, ah, je suis l'oncle foufou, moi. Merci Framboise. Oh, Melissa Queen. On t'envoie un max de force. Je ne sais pas si vous voyez le message de Melissa Queen. Ok. On t'envoie un max de force. on pense bien à toi et merci d'être avec nous. L'oncle Picsou, l'oncle nul à Valorant. Je suis cet oncle-là, ok, d'accord. Merci Blas Dogon, je vais aller voir ton message, ton CV. Je vais voir si je peux le transmettre. Bon, on va lancer, hein. T'es l'oncle boomer qu'on aime, le tonton cool qui aime apprendre les nouvelles choses. Merci David Soumino. Samuel, j'ai rêvé que tu étais mon ongle. Un ongle un peu décoré avec des paillettes, là, comme les filles font parfois. Avec des petites œuvres d'art, là. Cet ongle-là. Tu es l'oncle fun que les parents préfèrent à leurs parents stricts. Ouais. Je sais pas. Je suis un peu... Dans la vraie vie, je suis un peu con, en vrai. Quoi ? Théodore N, salut Sam, je te regarde tous les jours en direct de la Tour Eiffel du Jules Verne. Tu travailles au Jules Verne, le célèbre restaurant gastronomique de la Tour Eiffel ? Sérieux ? T'as quel endroit magique. J'y ai mangé il y a très longtemps avec mon amoureuse. Je crois que le chef a changé déjà plusieurs fois depuis. C'est pas toujours le même chef. J'ai cru voir ça, mais c'était aussi une expérience magique, un dîner un peu sympa à Tour Eiffel, c'est, je m'en rappelle. Ouais. Faut réserver longtemps avant, je crois. Hein. C'est un bel endroit pour bosser, je pense. Ange, ah bon, t'as toujours des cheveux pourtant. Non, c'est une perruque, c'est une moumoute. C'est un toupet. Bonjour Samuel, faut compter quel budget mensuel pour s'abonner aux principaux journaux, type Le Monde, Libé. Un journal, ça dépend. Pour les étudiants, il y a des prix. Et puis, ils font des promos régulièrement, les journaux, pour t'inciter à s'abonner à eux. Je sais pas, les journaux auxquels je suis habitué, chacun coûte à peu près par mois entre 10 et 15 euros max. Et encore, je paye plein pot, moi. Je suis pas jeune, rien du tout. Donc, tu vois, un journal comme L'Humanité, c'est 10 euros par mois. Je crois que Le Figaro, actuellement, je le paye autour de 15 balles par mois. Par mois, hein, pour genre pas loin de entre, ouais, 25-30 numéros, quoi. C'est pas cher, en vrai. Et évidemment, si tu t'abonnes à tous les journaux comme moi, ça te fait plus. Mais il y a des offres étudiantes, il y a plein de trucs. Si t'es étudiant du côté de la bibliothèque universitaire, tu vas trouver des trucs, ouais. Je me suis abonné à l'année. Voilà, il y a des promos, regardez. Il y a Romain qui dit « Je me suis abonné à l'année à Libération au moment du Black Friday pour environ 36 euros pour un an. » C'est étrange que tu payes plein pot alors que tu es journaliste, Nospi. Ah, parce que c'est parce que je fais exprès, en fait, moi. À un moment, moi, je dis, les journaux, il faut les lire et il faut les soutenir. Parce que sinon, ils vont disparaître. Un journal qui n'est pas lu, qui n'est pas acheté, dont les gens n'achètent pas le journal, c'est un journal qui disparaît. C'est derrière des gens qui s'appellent les journalistes, plus tous les corps de métier qui travaillent pour un journal. Et s'ils ne sont pas payés, ça ne marche pas, en fait. Et déjà que ce n'est pas un métier qui paye beaucoup. Donc du coup, moi, je pourrais avoir tous ces journaux gratuitement. Hein. Je pourrais demander à Libération de m'envoyer Libération gratuitement. Le Figaro, en disant, je vous fais une belle pub tous les jours, je parle de votre journal. Mais ce serait pas très cohérent, puisque moi je vous dis de soutenir cette presse, donc si je la soutiens pas moi, qui va la soutenir ? Deux, je préfère payer ces journaux pour être totalement indépendant et pour pas me sentir redevable en disant « Ah, mais je vais pas dire du mal aujourd'hui de l'Humanité ou du Figaro parce que il me le file gratuit. » Donc c'est pour ces deux raisons. Voilà. Merci pour la réponse. Pas de tarif jeune pour moi, j'ai ton âge. Merci Kataced. Mais en vrai, tu peux aussi acheter un journal de temps en temps. Un journal, ça ne va pas être une obligation. Tu n'es pas obligé de lire le journal tous les jours. Je pense que c'est même, trop, en vrai. Tu vois ? Donc, tu lis quand tu as du temps. Voilà, ou tu télécharges quand tu as du temps. Ça peut s'acheter à l'unité. Ah non, certains journaux ne peuvent plus s'acheter à l'unité. Mais tu vois, quoi. Tu reçois en papier ou tu es full numérique ? Full numérique. C'est moins cher en plus. Ouais. Minecraft, je sais pas, Fortnite, j'ai pas. Je sais que le jeu est fascinant, mais je pense comme ça. Il y a certains jeux dont je sais qu'ils sont fascinants, mais qui demandent peut-être trop d'investissement pour vraiment s'épanouir dedans, quoi. Je vais peut-être apprendre un abonnement à Le Monde, dommage qu'il ne soit pas sur caféine. Bah ouais, mais les journaux se sont rendus compte que les abonnements groupés type caféine et tout, c'était pas tellement intéressant pour eux. Parce que du coup, L'intermédiaire se sert au passage, et financièrement, les journaux se sont rendus compte que c'était plus intéressant de les vendre en direct. Donc les fameux agrégateurs de journaux, en fait, je ne les trouve pas très, très intéressants parce qu'il manque souvent les journaux que moi je trouve essentiels. Le Monde, par exemple, n'a jamais été sur un de ces trucs, quoi. Mais il n'est pas le seul. Voilà. Bon, on va lancer la revue de presse, bande de beaux gosses. La propagande est un barrage sur le fleuve du savoir. Grand pas. J'ai envie d'épingler ce message, d'ailleurs je l'épingle. La propagande est un barrage sur le fleuve du savoir. Il n'y a pas une alternative à s'abonner à chaque journal ? Si, BPCCC. Regardez la matinée Étienne sur Twitch tous les matins avec le beau gosse. Samuel, bonne ou mauvaise idée de laisser son journal papier sur son siège dans les transports après l'avoir lu pour le partager ? J'hésite. Bonne idée. Bonne idée. Parce que oui, alors tu vas dire « Ah oui, mais si je le laisse, ça veut dire que quelqu'un ne va pas l'acheter ?» Non. Tu vas provoquer la lecture chez quelqu'un qui a priori ne l'aurait pas acheté. Tu vas provoquer une curiosité pour un journal. Il y a peu de chances que ton Libé, ton Figaro, ton Lacroix soient ramassés par quelqu'un qui, oh, justement, devait acheter Libération Lacroix ce matin-là. Il va être ramassé par quelqu'un qui n'allait pas acheter le journal voire qui ne l'achète jamais. Et tu vas peut-être faire découvrir un objet que moi je trouve de qualité à des gens. Très bonne idée en vrai. Très bonne idée en vrai. Tu as suivi l'histoire de Anne arnaquée par Brad Pitt ? Ouais, j'ai vu un article de La Voix du Nord là-dessus. J'ai vu ça, ouais. Ouf. Merci Skello. Merci Samot. Merci Droscap. J'ai pas raté plein de subs là ? Merci pour les soutiens. Bon, on y va. On va y aller, on va lancer la revue de presse, on va faire le petit sommaire. On a fini à quelle heure hier soir ? On a fini vers 1h45, je crois. Pourquoi tu as sélectionné ces journaux ? Attends, si tu tapes... Ah, je sais plus ce que... Non. Attends. Ah, merde, j'ai fait un... RDP, merci Sugarfrog. Tiens, si tu tapes point d'exclamation RDP, tu as l'explication de pourquoi j'ai choisi ces journaux-là. Merci beaucoup Sugarfrog, j'avais oublié. Ouais, minuit 45 hier soir, après je me suis fait un petit bout de film, je me suis endormi. De temps en temps, les chouchous viennent dormir avec nous. On était quatre dans le lit, là. Il y avait Malo. Parce qu'en fait, Hélène travaillait hier soir donc à la maison. Donc du coup, à un moment, Solal s'est réveillé, le petit dernier. Il pleurait un peu. Il y avait un cauchemar. Du coup, elle a demandé à Malo, le grand, qui était en train de lire, qui a 8 ans, si il pouvait rester dans le lit avec Solal pour qu'il s'apaise. Et donc Solal s'est apaisé, ils sont endormis. Malo s'est endormi aussi. Donc, il a dormi avec nous et on s'est retrouvés à quatre quand je suis rentré et on était quatre. Mais Malo, il est mignon parce qu'il s'est rendu compte que quand il restait dormir comme ça, en fait, je pouvais pas, moi, parce qu'il n'y a plus de place. Et donc, mais pourquoi tu dors pas avec nous ? Bah, parce qu'il n'y a plus de place. Et donc, du coup, je dors dans sa chambre à lui. et depuis que je lui ai dit ça, les enfants sont incroyables. Et depuis que je lui ai dit ça, quand je rentre, en fait, il m'a laissé de la place. C'est-à-dire qu'il s'endort, il fait attention, incroyable. Et du coup, voilà, c'est fou. Incroyable, trop chou. Les enfants sont incroyables. Et j'adore. T'endormir et sentir les petits loulous à côté, tu vois, ça se retourne un peu dans son sommeil. Parfois, ça fait une espèce de mini câlin endormi. Pff, incroyable, les enfants. Est-ce que tu peux venir dans la visio que je fais avec mon prof de SES ? Pas de problème, Léox. Balance le lien, moi j'arrive en Teams. Hein. Merci Léos, Léos G, 03. Merci pour le 11e mois. Merci Pokawa pour le 19e mois. Merci pour les messages. Parmi les bonnes résolutions de 2025, j'ai décidé de faire plus de revues de presse. Sauf à partir de demain, je serai en question pour un champion pendant 7 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 7 jours. Donc là, j'y vais très tôt le matin, je ne pourrai pas faire la revue de presse. Mais il y aura beaucoup plus de revues de presse en 2025. Voilà. Avec Étoile qui vient jouer à question pour un champion la semaine prochaine! Voilà. Quel jour, je vous dis pas. C'est à lui de vous dire. Et pour quel résultat, on vous dira pas. Parce qu'avec Étoile, avec Rayou, on s'est parlé, on ne vous donnera pas le résultat, on ne leakera pas le résultat de Rayou à question pour un champion. Voilà. Il faudra attendre la diffusion. C'est interdit en plus par le règlement de l'émission. Ça te fait combien d'émissions enregistrées en 7 jours? 42. 6 fois 7, 42. 6 émissions par jour. Ouais, devoir de confidentialité. Ouais, le candidat, quand il participe à Question pour un champion, comme tous les jeux, il s'engage, et je pense qu'il passe par écrit, hein, à ne pas divulguer le résultat de l'émission. T'inquiète, il le leakera tout seul, ben, s'il veut. Mais en vrai, c'est interdit. 2 mois après la diffusion. À peu près deux mois. Il va tellement se faire harceler sur son stream, c'est chaud, ouais. Qui produit Question pour un champion? Fremantle. Streamer la diffusion tous les deux? Non, je vais lui laisser, remake. Please, Samuel, streamer la diffusion tous les deux? Non. C'est un moment qu'il veut vivre tout seul, ça. Je vais même pas lui proposer. Hein. Je vais pas l'emmerder. Ah non, il va faire une nuit de la culture exceptionnelle. Il va nous faire, vous imaginez, Étoile qui stream son Question pour un champion? Une nuit de la culture où Étoile réacte à Étoile? Qu'est-ce que je vais l'emmerder? Il n'a pas besoin de moi. Je ne vais pas lui gâcher ce moment, ça va être un moment incroyable. Je ne vais surtout pas lui proposer. Ouais. Moi, ce que je ferais, c'est que je le réacte après lui. Parce que moi, je ne réacte pas Question pour un champion, parce que Rayou réacte Question pour un champion, donc je vais pas faire la même chose que lui, c'est pas cool. Et donc, je vais attendre que Étoile le réacte, et après, je le réacte, moi. Mais je vais lui laisser ce moment, ça va être incroyable. S'il te propose de le react avec lui, tu le ferais? Ah bien sûr, ça c'est autre chose. Ah bah si Étoile me propose de le react avec lui, il y a zéro interrogation. Évidemment. Mais je ne lui proposerai pas, parce que je ne veux pas qu'il se sente obligé de me proposer. Et je pense qu'en vrai, c'est un moment qu'il doit vivre avec sa communauté. Merci Signaté pour le 20e mois d'abonnement. Ou alors Samuel qui réacte Rayou dans une émission avec Samuel. Oui, je peux aussi react, plutôt que react question pour champion, je peux react la nuit de la culture où Étoile est passée. C'est-à-dire que c'est Samuel qui réacte à Rayou qui réacte à Samuel. Je peux faire ça aussi. C'est pas trop compliqué, tourner 40 émissions, ça va, c'est un peu physique, mais ça va quoi. Juste comme ça, vous savez comment Étoile est tombée dans Question pour un champion? Bah parce qu'il a annoncé Beginner. Ouais, c'est Question pour Inception, exactement. Joli. Salut Mathieu, ça va? Bon, on y va? Attends, moi ce matin, il faut que je vous laisse à 13h15. Donc on est bien, on a un peu de temps ce matin. Il y aura des redis, des émissions avec Radio? Bah ce sera sur YouTube, hein, je pense. Ouais. S'il gagne, il rejoue direct la même journée. Je me demande si. Ouais, si, il peut enchaîner plusieurs émissions, je crois. C'est pas la dernière émission de la journée. Je crois qu'il peut potentiellement gagner plusieurs fois d'affilée le premier jour déjà. C'est le premier jour de participation. 2 ou 3 fois, je crois. Samuel, j'ai réunion dans 5 minutes, on peut avoir le sommaire? Ok. Let's go, c'est parti. Ok, let's go. Hop, le sommaire en 5 minutes. Pour ceux qui n'ont pas le temps de rester 2-3 heures avec moi, vous avez l'essentiel de l'actualité. On va beaucoup parler. Alors, il y a l'abbé Pierre, on va en parler, mais aussi de François Bayrou. Pourquoi? Parce que le chef de gouvernement, le Premier ministre, va prononcer aujourd'hui son discours de politique générale. C'est quoi? C'est le chemin qu'il propose pour sa politique. Voilà, pour son gouvernement, l'heure de vérité pour Bayrou, ce mardi à 15h. Je pense que s'il y a des amis de Jean Massier ici, vous pouvez nous le confirmer, mais je pense que Jean Massier va sûrement streamer cet après-midi. Est-ce que Jean l'a annoncé? Il l'a confirmé? Je pense que oui. Hein. Ce mardi à 15h, le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale à la tribune de l'Assemblée. Il l'a annoncé? Bien sûr. Voilà. Moi, je serai sur Valo. Là, pareil, hein, je pourrais aussi le streamer, moi, Bayrou à l'Assemblée. Hein. En vrai, ça m'intéresse. Hein. Mais à partir du moment où Jean le fait, je ne veux pas le faire. On lui laisse. Voilà. Donc, sous injonction contradictoire, il veut toper avec la gauche sans rompre avec la droite. Pas Jean Massier, hein, mais François Bayrou. Alors, c'est ça la grande question. Mais le discours de cet après-midi devrait y répondre. Alors, devrait y répondre conditionnel, parce que Bayrou, c'est aussi quelqu'un qui peut être très prudent dans les mots. Voilà. Est-ce que son discours va plutôt pencher vers la gauche ou vers la droite? Ça, c'est la grande question d'aujourd'hui. La droite est un peu inquiète justement que ça aille trop à gauche, donc on lit dans le Parisien. L'humanité. Alors l'humanité, un très beau titre. Parfois, un titre, il a ce mérite de très bien résumer une situation. Voilà. Et là, toute la question qu'on se pose, elle est résumée par ce titre très simple de l'humanité. François Bayrou écoutera-t-il à droite ou à gauche ? Voilà. Il est pressé par la droite et son extrême de ne rien lâcher sur le budget, largement inspiré de la copie de son prédécesseur Michel Barnier. La gauche, elle, exige un nouveau cap, notamment sur la réforme des retraites. La gauche, socialiste, communiste et écologiste, et les filles sont sur une autre stratégie, demande la suspension de la réforme des retraites. Donc, on en parlera tout à l'heure, avec, notamment avec l'UMA. Voilà. Je vous parlais de la position de la gauche. Négocier avec Bayrou ou non, telle est la question. Les forces du NFP sont divisées, parce que je vous le disais, côté socialiste, communiste, écologiste, on tente de faire pression sur Bayrou pour que ce gouvernement penche un peu à gauche. Du côté de LFI, on ne dit pas du tout. Il faut qu'il se barre, il faut une motion de censure, puisque Mélenchon, lui, ce qu'il veut, c'est une nouvelle présidentielle. Voilà. C'est ce soir, non, c'est à 15h le discours à Nice. Voilà. C'est aussi l'année de Libération. Hein. Le discours, non pas le discours d'un roi, joli titre de Libération, un petit clin d'œil au film célèbre, mais le discours d'un choix, puisque François Bayrou va abattre ses cartes, ou pas. Puisque, attention, il y a un risque de déception quand même, puisque tout le monde annonce que Bayrou va annoncer la couleur à 15h. Bayrou, c'est quand même quelqu'un très prudent, c'est une grosse expérience politique. Il n'est pas impossible qu'il ménage la chèvre et le chou assez longtemps et que ce ne soit pas très très clair. Voilà, donc ne soyez pas forcément déçus. Oula, j'avais pas vu le titre. François Bayrou va-t-il conclure ? Waouh, ok, d'accord. C'est son choix, Libé. Big Race, très bonne question. Petite question que je viens de me poser. Est-ce que tu as le droit de partager gratuitement un contenu que tu as en abonnement, les journaux ? J'imagine que oui, mais j'aimerais pourquoi les journaux et pourquoi pas Netflix, par exemple ? Tout simplement parce qu'en fait, faire une revue de presse, ce que je fais, c'est-à-dire non pas lire un journal dans son intégralité, mais aller chercher une toute petite partie d'un article et une toute petite partie d'un autre article et une toute petite partie d'un autre article dans un autre journal, c'est le droit à la citation, c'est la revue de presse. La revue de presse, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe depuis la nuit des temps, hein, bien sûr, en radio, en télévision, sur Internet. Et en fait, si tu cites des parties de journaux et plusieurs journaux, tu es dans ce qu'on appelle le droit à la citation. Voilà, donc ça c'est juridiquement encadré, il n'y a aucun problème avec ça. En revanche, si je m'amusais à lire Le Monde dans son intégralité à mes abonnés ou Libération dans son intégralité à mes abonnés et que Libération, mais en gros en pompant, en volant le contenu d'un journal quasiment intégralement pour faire de la monétisation au final, bon, et m'approprier le travail d'une centaine de journalistes sans rien demander, bon là forcément c'est problématique. Et là ce ne serait pas un droit à la citation. Là tu parles de Netflix. C'est pas une revue de presse. Hein. Tu vas pas citer 10 secondes de Netflix, 15 secondes d'Amazon. Non, tu vas les pomper. Tu vas faire un réact sur une série ou que sais-je. Quoi. Donc là, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc, pas de souci. C'est très encadré. C'est très ce qu'on appelle le droit à la citation. Quoi. C'est la revue de presse. Ça existe depuis toujours. Libération, on parle. On verra ça. Le Figaro en parle. Le Figaro, journal plutôt à droite, hein, qui lui est plutôt inquiet, justement, de ce virage qui pourrait se faire vers... la gauche, de la part de François Bayrou, avait peut-être un geste sur les retraites. La droite estime que ce serait une catastrophe de revenir sur la réforme des retraites. On lira ces arguments. Regardez ce titre, ce que coûterait une suspension de la réforme des retraites. Une blinde, disent ceux qui ne veulent pas de cette réforme. Alors, on revient au Parisien. Un petit peu de whisky chaud. Voilà, ça, le whisky chaud, c'est incroyable. Ah, c'est bien. Alors, on dit Parisien, il y a autre chose. Il y a les nouvelles accusations contre l'abbé Pierre, agression sexuelle. Bon, dans un premier temps, je me suis dit, bon, oh, l'abbé Pierre encore, comme le dit à l'instant Anissa, encore l'abbé Pierre. Je dis, bon, bah, on a compris, hein, sous ses airs de gars super sympa, dévoué pour les autres, monsieur, soupir, foutez-lui la paix, cotane, moi, c'est... Dans un premier temps, je me suis dit, à quoi bon ? Et puis, j'ai lu l'article. Cotane. Et quand tu vas lire l'article avec moi, Cotane, tu diras plus « soupir, foutez-lui la paix ». Tu diras « putain ». Putain, quand même, c'était gravissime. Voilà. Comme le dit Plopeg, pense un peu aux victimes. Voilà. Putain, c'était gravissime. Comment on a pu laisser faire ? Parce qu'il y a des gens qui savaient. comment on a pu ne pas entendre les victimes à l'époque, puisqu'il y a des victimes à l'époque qui ont essayé de parler et personne ne voulait les entendre parce que c'était l'abbé Pierre. Voilà. Donc, du coup, j'ai lu l'article et j'ai trouvé ça assez hallucinant. Impardonnable, titre le Parisien. Voilà. Donc, on lira cet article. On ne va pas y passer 10 heures, mais on va le lire. Sous la soutane à pointeur, ben, un peu l'acide, ouais. Un petit peu, ouais. Voilà. On a beaucoup. On a adoré, aimé cet homme incroyable qui était l'abbé Pierre pour son œuvre caritative. On découvre que c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Qu'il avait un comportement extrêmement problématique avec les femmes et peut-être aussi les enfants. On lira ce papier. Voilà. Évidemment, Andreas et Chevy posent des questions qui sont de vraies bonnes questions. Quel intérêt d'inculper un mort ? Alors là, je réponds justement que les victimes se sentent enfin écoutées. Mais il y a présomption d'innocence ou pas ? Bien sûr, Chevy. Moi, je me pose la même question que vous. Quand je lis cet article, je me dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui prouve ? Hein, il ne peut pas répondre, il ne peut pas se défendre. C'est vrai. Voilà. Mais ce qui vient faire que je pense qu'il faut en parler malgré tout, c'est parce que les témoignages sont extrêmement nombreux. De gens extrêmement divers. Sur une période de temps très longue. De gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas parlé. Des gens qui, en fait, souvent avaient dénoncé de leur vivant dans des livres, qu'avaient écrit des lettres, voilà. Sauf que personne ne voulait les entendre. Donc c'est parfois de très vieilles accusations. Et là, quand on voit tout ça, quand on voit la concordance des témoignages de gens de différentes générations, et on verra même enfants, dans des milieux extrêmement différents, on se dit, voilà, ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de témoignages, quoi. Voilà, donc, mais effectivement, il faudra souligner qu'il ne peut pas se défendre et de ses accusations. Voilà. On parlera un peu de natalité, plutôt de dénatalité. Bon, c'est pas une info, hein. La France fait moins d'enfants, fait beaucoup moins d'enfants qu'avant. Voilà. Et certains s'inquiètent de cette dénatalité. L'Opinion, qui est un journal qui s'intéresse beaucoup à l'économie proche des entreprises, la dénatalité accélérateur du déclin français, là, c'est une vision où le fait pour un pays de faire beaucoup moins d'enfants viendrait impacter l'économie, la question du financement des retraites et tout. Donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est assez intéressant. On va parler un petit peu de... Alors, pas de Musk, on parle souvent de Musk en ce moment parce qu'il prend pas mal de prises de position politique, y compris par rapport à l'Allemagne en ce moment. Mais pas de Musk, mais de Mark Zuckerberg, hein, vous voyez en bas là. Mark Zuckerberg, le patron du groupe Meta, donc qui se convertit au trumpisme. Voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas en odeur de sainteté auprès de Trump. Et depuis qu'il sait que Trump... est élu, eh bien, il a pris le vent, il a un peu bougé sa voile, un peu beaucoup, voilà, et il a complètement changé son discours sur Trump, voilà. Il fait des chèques et il change beaucoup de choses en interne, notamment sur la modération, en disant que il va abandonner le fact-checking sur ses plateformes parce que ça casse les couilles en vrai, voilà. Et voilà. Et il se lance en croisade contre l'idéologie woke et la censure. Voilà. Donc avant, c'était plutôt des prises de position de Musk et maintenant t'as Mark Zuckerberg qui s'aligne et il le dit, hein, en gros, hein, business is business, quoi. Voilà, c'est extrêmement. Ça a le mérite d'être super clair. Voilà. Merci Daria. Merci Signatem. Donc je suis en sommaire, je vais assez vite. Ça me semble un peu. Pas anecdotique, mais pas super. Bon, mais en même temps, moi, je viens du monde de la télé. Je me suis dit que j'allais en parler rapidement. La numérotation des chaînes de la TNT change, puisque vous savez qu'il y a des chaînes qui ont perdu leur autorisation d'émettre, notamment C8, si je ne dis pas de bêtises. Il y a deux nouvelles chaînes qui arrivent. Et du coup, il y a des numéros qui sont libérés. Et donc, l'ARCOM, hein, l'autorité de régulation des médias audiovisuels, a réattribué les numéros, tout ça. Et on a des nouveaux numéros. Voilà, il y a la 4... France 4 qui remonte sur le 4. On a deux chaînes d'infos qui étaient assez loin, France Info et LCI qui étaient très très loin et qui remontent dans un même groupe avec BFM, CNews, LCI, France Info. Donc c'est une bonne nouvelle plutôt pour les deux chaînes que je viens d'évoquer, etc. Donc on va voir ça rapidement, mais bon, en vrai, ça n'a pas changé la face du monde, quoi. Voilà. Et Gulli qui vient à 12, peut-être. Ouais. Pourquoi certaines chaînes n'ont plus le droit d'émettre? Parce que je ne l'ai pas particulièrement, mais ça me questionne. Pour une raison très simple, hein, pour les gens qui disent pourquoi certaines chaînes ont perdu leur autorisation d'émettre, comme C8 par exemple, parce qu'elles n'ont pas respecté leur cahier des charges. Voilà, impeccable. Hein, ceux qui crient à la censure ou à la non-liberté de je ne sais pas quoi en France, une chaîne, pour avoir une autorisation d'émettre, elle accepte un cahier des charges. C8 n'a pas respecté son cahier des charges, par exemple, pour ne parler que de C8. À maintes reprises, C8 a été la cible d'avertissement de l'ARCOM et d'amendes gigantesques, hein, parce que l'antenne n'était pas tenue, notamment par Cyril Hanouna. Donc il y avait de gros problèmes, plein de reproches. Alors, ça a été documenté, il y a eu des amendes et tout. Et C8 préférait payer. Ah non, C8 n'est plus là. Non, c'est LCP Public Sénat qui est en 8. Regarde. Excellent, tu vois. Ah non, tu vas pas confondre C8 avec Public Sénat et la chaîne parlementaire. Hein. C'est pas tout à fait, y a pas tout à fait le même contenu. Hein. Et donc à un moment, comme Bolloré, d'ailleurs C8, il payait les amendes, il n'avait rien à foutre. Et sauf qu'à un moment, l'ARCOM s'est fâché et a dit voilà, vous ne respectez aucun de nos avertissements. Voilà, vous ne respectez pas votre cahier des charges. On retire. Le truc, quoi. Canal Plus saute aussi. Non, c'est Canal qui se retire. Canal Plus, c'est peut-être un petit peu d'ailleurs en représailles. Canal Plus a décidé d'abandonner son canal TNT. Voilà. Donc la 4 se libère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas respecté, ces 8? Rien, en gros, Lloyd. Rien. Pour faire simple. Tu pourras aller faire des recherches si ça t'intéresse. Ouais, mais là, on va pas faire une matinée Étienne sur ces 8. On en a suffisamment parlé, quoi. Ces 8 n'existent plus du tout. Bah, non. Question bête, c'est payant d'avoir un slot sur la TNT? Non, je crois que c'est gratuit, Hydro. Grossignol dit BFM ne respecte pas non plus son cahier des charges. Normalement, c'est une chaîne éco. Ouais, c'est même moi qui vous l'ai appris, ça. Ouais. BFM, normalement, ça devait être une chaîne d'information 100% économique. Je parle pas de BFM Business, mais de BFM. D'ailleurs, le B, c'était pour business. Et en fait, dès le début, ils n'ont pas respecté leur cahier des charges et ils sont devenus une chaîne d'info généraliste au lieu d'être une chaîne d'info économique. Bon, ils n'ont pas respecté leur cahier des charges, mais bon, pour le coup, on les a laissés faire. C'est un vieux truc. Il n'y a pas de question bête, Samuel, moins de condescendance, s'il te plaît. Tiens, ça s'épingle, ça. Non, c'est juste qu'en fait, C8, on en a parlé à peu près 1 milliard de fois, et donc j'ai pas envie de répondre à la question 1 milliard de fois. Donc c'est pour pas saouler les habitués. Par contre, j'adore ton commentaire, du coup, je l'ai épinglé. Après, j'ai le droit de ne pas répondre à certaines questions, hein. Surtout celles où j'ai répondu à peu près littéralement 1 milliard de fois, quoi. Hein, sinon, ça devient une chaîne de replay, quoi, ici, quoi. Hein. Imagine, pourquoi Samuel ne fait plus de revue de presse? Bah, en fait, il met tout en replay, parce qu'en fait, comme on lui pose toujours les mêmes questions, il en a eu marre. Voilà. Mais je pense que tu connais pas la définition de condescendant. Merci, Carole CGM. Canal a disparu, Canal est parti. Canal est parti de la TNT. Canal existe toujours ailleurs, quoi. En satellite, tout ça. Hein, c'est de la TNT, de la fréquence TNT, quoi. Mais Canal ne saute pas, Giro. Dis pas C8 et Canal saute. Non, Canal se retire de la TNT. C8 est viré de la TNT. C'est vraiment pas la même chose, quoi. Canal Plus, ouais. J'ai présenté JT sur Canal, ouais, j'ai présenté JT sur Canal. Sur France 3 aussi, sur Canal, sur iTélé. Voilà pour le sommaire. Du coup, c'est quelle chaîne qui les remplace? Ah bah ça, je vous le dirai dans la revue de presse, parce que là, c'était le sommaire. Parce que si je donne toutes les infos dans le sommaire, c'est plus un sommaire, c'est une revue de presse. Donc du coup, je fais en deux temps. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas trop de temps. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je pars au boulot en 5 minutes, est-ce que tu peux me donner l'essentiel de l'actu? C'est le principe du sommaire. Là, maintenant, on va prendre le temps et puis on va lire les articles. On va essayer de comprendre ensemble et puis je vais essayer de répondre aux questions. C'est quel whisky que tu utilises? Je sais pas, c'est un whisky pas cher que j'achète en bas à la supérette. Salut Djouboul. Je vais t'en parler Alexandra du changement des numéros de chaîne. Ouais, il y a West France qui arrive avec une chaîne, ouais, OFTV. Enfin, c'est le nom de code, ça va peut-être changer. Ouais. France 4 sur la 4, ça devient logique. Oui. Oui. Après, c'est vraiment un beau cadeau à France 4 parce que du coup, ils sont dans le top des chaînes tout en haut là. Et ça joue hein, sur les audiences. Hein. Plus t'es haut, plus mécaniquement, plus ça te favorise. Alors que, bon, bah, sans faire un jure à France 4, c'est pas une des plus grosses chaînes de France en termes de programme, quoi. Je pense que moi, je serais M6, ça, je râlerais un petit peu, quoi. Non, mais c'est un nom de code OFTV. Hein. C'est le nom de code de chaîne. Et c'est West France TV, quoi. OF, mais ils vont peut-être avoir un autre nom. Bon partiel d'histoire Corot. Après, M6 sur la 4, ce serait bizarre. Ouais, on peut dire M4. Il ne devait pas y avoir une fusion M6 TF1. Ouais, mais ça a capoté à cause de l'autorité de la concurrence. Je crois. En termes de concentration, un truc comme ça. Non, France 4, c'est une chaîne publique, JRO. OFTV, ça fait OnlyFan TV. En vrai, ça pourrait booster les audiences. Hein. Moi, je serais West France, je garderais ce nom. Hein. T'as plein de gus qui vont débarquer sur West France TV en pensant que c'est OnlyFan TV. Ils vont lancer la chaîne, ils vont avoir 10 millions de gars qui regardent. Ils vont pas comprendre. Ça ferait pas monter que les audiences. Ouais. Moi, je serais conseiller de West France. Moi, je suis en conseil d'administration. T'as un mec qui dit bon, par contre, on va changer le nom de la chaîne parce que OFTV, mon petit neveu m'a dit que ça pouvait faire penser à autre chose. Je leur dis ne changez rien, les gars. Ne changez rien. Vous allez tout casser, quoi. Après, ils vont être vite déçus. Ouais, mais il y en a qui vont attendre. Il y en a qui vont attendre en se disant c'est peut-être l'émission d'après. Merci, Ticapi. Présenté par qui? Par Mia Khalifa Hamzou. Ah, je connais pas toutes les présentatrices d'infos, moi. Je ne regarde plus trop la télé. Je sais pas du tout qui va être recruté. Pas au courant de tout, moi. Bon, on y va pour la revue de presse. Let's go. C'est Darty mon kiki, ok. T'as Clément Polito qui bosse chez Darty, qui a fait une petite pub discrète là. Bien joué. Let's go. Ah, il y a Vincent Lagaffe qui est dans le chat, qui a pris le pseudo de François Bayonne. Le big deal cartonne pour ce retour à la TV. On t'a reconnu, Vincent. Non, en vrai, ouais, ça marche bien. Allez, on y va. Alors, ça tousse. Alors, on commence par Bayrou, donc. Bip, bip, ouais, j'ai la ref. Bayrou qui va prononcer un discours très attendu cet après-midi à 15h. Vous irez voir ça chez Jean Massier pendant que je mettrai des têtes sur Valo. Merci, Julien. Alors, pourquoi c'est important? Nommé il y a un mois, hein, le Premier ministre s'apprête à présenter sa feuille de route. Donc, ce qu'il sa feuille de route, sa politique générale, hein, les grands axes de sa politique pour, Pierrot dit, pour combien de temps va durer ce gouvernement, pour les jours, les semaines, les mois à venir, ça, on ne sait pas. Simone Wyss, merci beaucoup pour ce soutien à l'instant. Discours de politique générale, dans une Assemblée nationale déchirée, évidemment, rien n'a changé. Qu'est-ce que dit Marie-Christine Tabet dans son édito? Tu regardes si c'est par rapport à l'article, si c'est intéressant. Bon, on est un peu trop sur l'analyse, on va aller sur les faits plutôt. L'épreuve de vérité pour Bayrou, donc ce mardi à 15h, je pense que la mi-juin va lancer un petit peu avant son stream. Le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale à la tribune de l'Assemblée. Sous injonction contradictoire, il veut toper avec la gauche sans rompre avec la droite. Christophe, bienvenue, merci d'être avec nous. Ah, on a une première... Oh, intéressant. J'apprends par cet article de Thomas Soulier qu'il y a une première version du discours qui circule actuellement. Sous le manteau. Ah. Première version qui peut peut-être changer. Quelques proches ont eu la chance de pouvoir jeter un coup d'œil à cette déclaration de politique générale entièrement écrite par François Bayrou. Ok. Mais il peut amender sa copie jusqu'à la dernière minute. Putain, ce serait fou que... Imaginez qu'on arrive à avoir le discours là, avant tout le monde. Ce serait incroyable. Rarement une DPG, une déclaration de politique générale, n'aura suscité autant de mystères, de suspense et d'attente. C'est pas faux. Avec un dossier au-dessus de la pile, celui de la réforme des retraites. Bah oui, puisqu'en fait, que d'habitude, bon, avant, il y avait la gauche, la droite, des gouvernements et des politiques, des couleurs politiques très très claires. Donc, bah, globalement, les annonces, on les connaissait. Mais là, comme on a une assemblée extrêmement déchirée, la grande question est de savoir, c'est où est-ce que François Bayrou va tenter de trouver une majorité, ou une majorité pour le soutenir, ou une majorité pour ne pas le censurer. Est-ce qu'il va plutôt pencher à gauche ou à droite? C'est ça la grande question. Voilà, par exemple, un point de friction entre la gauche et la droite, c'est la question de la réforme des retraites. La gauche réclame la suspension de cette réforme, tandis que la droite, Édouard Philippe, par exemple, a averti que c'était une mauvaise idée. On va en beaucoup parler ce matin. Voilà. C'est l'épreuve de vérité pour Bayrou, qui a toujours voulu réconcilier les irréconciliables, déclare un macroniste. Je vous lis les passages les plus importants. Ok. Ok. C'est intéressant ça. Depuis des jours, François Bayrou subit l'effet des vases communicants. Plus le PS se montre confiant dans ses déclarations en mode il va faire des annonces plutôt vers la gauche, plus la Macronie, et sans doute la droite, craint le pire. Au début, personne ne croyait en accord avec le PS. Mais là, ça devient tangible, donc ça rue un peu dans les brancards. On a peur que Bayrou lâche tout pour acheter sa survie. L'analyse est intéressante. Pourquoi ? François Bayrou, c'est un homme qui a eu des responsabilités politiques. Il a une longue carrière politique, mais il n'a jamais été Premier ministre. Voilà. Et bon, ce n'est pas lui faire injure que de dire que c'est un homme qui aime plutôt le pouvoir, qui est sûrement très heureux de ce qui lui arrive, et que je pense qu'il est très content d'être enfin Premier ministre, même si son rêve à lui, c'est de devenir président de la République. Et je pense qu'il n'a pas lâché cette idée de devenir un jour président de la République. Voilà. Donc quelque part, il est Premier ministre pour la première fois, à un âge relativement avancé, et je pense qu'il n'est pas débile de dire qu'il va essayer de durer le plus longtemps possible. Qu'on ne puisse pas dire, bon, le gars a battu un record de brièveté sous la Ve République, comme son prédécesseur Michel Barnier. Je pense qu'il ne le vivrait pas très très bien. Hein, je pense que son objectif à court terme, c'est de durer. Et pour durer, eh ben, il faut trouver des gens pour te soutenir, ou en tout cas pour pas te censurer. Voilà. Et donc c'est là où la droite et les macronistes ont peur, parce que si à un moment Bayrou dit « moi, c'est via notamment un accord avec la gauche que je vais réussir à durer un peu », eh bien, je vais le faire. C'est un peu l'analyse du Parisien ici. Alors, Gérard Larcher, président du Sénat, à droite, lui, il a fixé deux lignes rouges, sinon il se met en colère. L'abrogation et la suspension de la réforme des retraites. Voilà, c'est ce que demande la gauche. Attaché à l'orthodoxie budgétaire, l'alliance droite-centre ne veut pas cramer la caisse, écrit le Parisien. En tête, le chef de l'État qui, selon plusieurs soutiens, semble d'accord pour ouvrir le dialogue sur la réforme des retraites, mais sans suspension. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir le dialogue sur la réforme des retraites sans suspension? Pas très clair. Un peu du blabla. Hein. Un peu du gagner du temps, moi, j'ai l'impression. Évidemment, pourquoi les macronistes et pourquoi le président Macron ne veulent pas lâcher sur la réforme des retraites? Parce que c'est l'une des réformes emblématiques de la Macronie, et du coup, le bilan du président serait abîmé. C'est assez clair, l'article. Parisiens, ils sont... Je prends mon sirop contre la toux, là. Mais le Parisien, souvent, est un journal qui est assez clair, aime bien simplifier. Pas simplifier bêtement, mais avec des articles pour rendre accessible un peu à tous, parfois, des situations politiques un peu compliquées. C'est ce que j'aime bien dans... Je suis en train de mettre du sirop contre la toux partout sur mon tapis de stream. Autant dire que pour mettre des têtes sur Valo, ça va pas être terrible. Voilà, côté synthétique, ouais, vulgarisé, exactement. Voilà. La droite hausse le ton, vous l'avez compris, ils sont un petit peu énervés. Ok, ça c'est pour le Parisien. Dégueulasse. Bon, évidemment, c'est pas un sirop contre la toux, vous avez compris que c'est sûrement une autre boisson que je cache dans une bouteille de sirop contre la toux. Je pense que vous savez comment je fonctionne. Dégueulasse. L'humanité, alors l'humanité ce matin, a le mérite d'un titre extrêmement clair. Voilà, en sursis, parce que quelqu'un posait la question tout à l'heure, j'ai oublié ton pseudo, pardon. Combien de temps va durer ce gouvernement ? C'est vrai que sur le papier, a priori pas longtemps, mais on ne sait jamais. Voilà. Et en fait, je trouve que le titre de l'humanité résume très très bien la question que tout le monde se pose. Voilà. Est-ce que François Bayrou écoutera à droite ou à gauche ? Voilà. Le Premier ministre prononce, il va revenir à l'article. Ce mardi, sa déclaration de politique générale, il est pressé par la droite, son extrême de ne rien lâcher sur le budget. Voilà. Je vais lire en diagonale cet article pour voir ce qu'il ajoute par... Oh, ça a sauté. Ce qu'il ajoute par rapport aux Parisiens dans le dossier, lisons rapidement. Voilà, c'est ça, c'est la question, c'est exactement ça, hein. C'est marrant, les gens qui disent la droite, c'est sûr, mais depuis tout à l'heure, je vois des gens qui disent la droite, c'est sûr, mais vous ne savez pas, je ne sais pas, vous ne savez pas. En fait, le seul qui sait, c'est François Bayrou. Alors, on n'est pas au PMU, on ne joue pas sur Cheval Fougueux dans la troisième, avec son fameux jockey Albert Lebrun, qui a perdu 2 kilos, et puis il n'a pas couru depuis 6 mois. Bon, le terrain est un petit peu lourd, un petit peu détrempé, mais je vais quand même mettre 15 balles parce que j'y crois. Non, vous ne savez pas, je ne sais pas, moi non plus. Le seul qui sait, c'est François Bayrou, à supposer qu'il sache. Donc, donnez-moi des infos, mais dites pas, c'est sûr, à droite. Non, vous savez pas. Personne ne sait. La preuve, la droite, elle est boule. Ils ont peur que ça penche à gauche. Donc, ce sera peut-être à droite, mais on le saura à partir de 15h. Attendez, il y a 3 heures à attendre. Incroyable, ça. On n'est pas au PMU, putain. Hein ? Donc, de quel côté de l'hémicycle François Bayrou regardera-t-il ce mardi quand il prononcera sa déclaration de politique générale ? Et là, t'as, dans le chat, il dit « À droite ! À droite !» Bah attendez, putain. Attendez. Je sais pas, moi. Peut-être. Je sais pas. T'as une chance sur deux. Alors, évidemment, si c'est à droite, tu pourras dire « Ah, je l'avais dit ce matin !» Là, on a une chance sur deux. Alors, déjà, l'humanité parle, mais il va en reparler un peu plus loin, d'une division au sein de la gauche, au sein du NFE, puisque les Insoumis, eux, avec Jean-Luc Mélenchon, ils veulent la censure. Ils ne veulent pas de Bayrou, ils ne veulent pas du gouvernement. Voilà, ils sont repartis pour la censure. Peut-être en votant avec le RN de nouveau, pourquoi pas. Du côté du PS, des communistes et des écolos, eux, ils font pression sur Bayrou pour avoir un virage sur les retraites. Voilà, ils jouent un peu pragmatique, quoi. Et de l'autre côté, la droite fait monter les enchères, parce qu'évidemment, la droite dit « si jamais vous revenez sur la réforme des retraites, ça va barder et on votera la censure ». Alors pourquoi les écologistes, les communistes et les socialistes veulent obtenir une victoire pour les Français sur le dossier des retraites ? Ben voilà, ils sont en mode pragmatique. Voilà, ils disent « si on arrive à obtenir un truc, tant mieux, quoi ». Le dossier des retraites va donc obliger François Bayrou à des contorsions dites d'un fakir sur un tapis de clous, car la droite veut à tout prix conserver le texte portant sur l'âge de départ à 64 ans. Voilà. Valérie Pécresse, donc présidente de droite de la région Île-de-France, déclare « suspendre la réforme des retraites serait le triomphe de la démagogie, de l'irresponsabilité que la droite ne peut cautionner ». En plus, on parle des retraites, mais c'est tout un budget qu'il faut trouver. Merci Akira pour le soutien. On ira voir d'ailleurs quels sont les arguments du camp de gens qui ne veulent pas un retrait de la réforme des retraites ou une suspension en disant que la France, ça pourrait ruiner la France. On ira voir ça. J'ai trouvé des papiers ce matin que je vais vous mettre de côté, que je vous ai mis de côté. Alors, il y a les retraites, mais évidemment, vous imaginez bien qu'un projet de budget porte sur plein de choses. D'autres dossiers pourraient menacer la survie du gouvernement. On demande une hausse du budget de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. On demande des moyens supplémentaires pour l'hôpital. On demande le renoncement à la baisse des remboursements de médicaments, insiste Emmanuel Grégoire. La gauche existe également des mesures sur le pouvoir d'achat. Hein, les communistes demandent par exemple une indexation des salaires sur l'inflation et une hausse du point d'indice des fonctionnaires. François devra déterminer de quel côté il regarde également sur la question régalienne, hein, sur la question notamment de sécurité. De Tanuk, salut tout le monde. Je partage ma joie aujourd'hui avec vous. J'ai enfin quitté mon job que je faisais depuis 14 ans. Dans 2 mois, je pars vivre au Québec. GG à toi. On te souhaite la meilleure aventure. Voilà. Négocier avec Bayrou, non, telle est la question. Je vous le disais, LFI n'est pas aligné sur ses partenaires de NFP. Eux, ils veulent que ça dégage. Quel est l'argument de... Je vais voir si dans cet article, il y a les arguments de LFI. C'est intéressant. Merci pour les GG à notre ami là, qui part au Canada. Discuter ou ne pas discuter, telle est la question. Alors, j'essaie de trouver les arguments de LFI. Pour Jean-Luc Mélenchon, discuter avec François Bayrou, à qui il promet une motion de censure le 16 janvier, c'est quand le 16 ? C'est quand le 16 ? C'est dans 2 jours. Voilà. Donc, Mélenchon, lui, il veut une motion de censure dans 2 jours. Il relève de la compromission et non du compromis. Le discours prétendument raisonnable sur le mode « voyons d'abord ce qu'il va faire » est juste une duperie car on sait déjà ce qu'il va faire, dit-il. Ne pas voter la censure du 16 dans 2 jours, c'est une imposture pour essayer de sauver Macron contre des promesses venteuses. C'est du vent, quoi. C'est d'ailleurs bien l'Élysée que les insoumis continuent de viser, espérant une démission du chef de l'État, et une élection présidentielle anticipée. Bon, c'est ce que reprochent aussi les partenaires de LFI au sein de la gauche en disant « Vous ne pensez qu'à la présidentielle, vous êtes obsédé par la présidentielle. » D'où cette volonté d'ajouter de la crise à la crise, puisque motion de censure, c'est encore un gouvernement qui sauterait. Déjà, la France n'a pas de budget en ce moment. Elle a juste reconduit le budget d'avant, mais c'est un peu compliqué. Et donc, forcément, c'est une crise politique. D'ajouter de la crise à la crise pour arriver à leur fin. En cas de démission d'Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, je n'imagine pas Emmanuel Macron démissionner. Je n'y crois pas. Jean-Luc Mélenchon serait en capacité de prendre de vitesse ses partenaires. À gauche, puisque la candidature de Mélenchon pour LFI, elle sera sans doute pas très très discutée, quoi. Et ce que disent ses partenaires de gauche, ouais, mais là, tu risques de provoquer l'élection à la présidentielle de Marine Le Pen. Voilà. Bon, nouvelle division de la gauche, mais c'est pas la première fois. Je vous lis un petit peu là-dessus. Je vous lis. Merci à Ted Magnus pour le let's go et pour le soutien. Merci mon ami. Samuel, je ne pense pas que le public de Question pour un champion comprenne le terme pré-shot. Ah, j'ai dit pré-shot à Question pour un champion ? Merde. Ah oui, maintenant quand un candidat répond très vite, je dis il a pré-shot la question. Ouais, t'as raison, faut peut-être que je m'adapte un petit peu. Ouais. Ok, ouais. Bah, c'est vrai que je me laisse un peu aller là. Ouais. Bon bah bravo Nicolas, hein, je crois que... Au niveau du spike, vous avez totalement bien géré. Hein. Vous êtes allé en bas. Julie, vous attendez en B. Ça a été une totale surprise. Ouais. bravo. Oh putain, ouais. Puis à un moment, elle était comme un lapin dans les phares d'une bagnole. Je crois que vous l'avez flash au bon moment. GG. Hein. Ouais, non, faut que je fasse gaffe. Ouais. Je dis banger aussi. Oh là là, ça va pas du tout. Ces vieux qui jouent aux jeunes. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais épingler ce message. C'est moi qui vais l'écrire. Ces vieux qui joue aux jeunes, je n'en peux plus. Sur Twitter, je reçois beaucoup de messages comme ça. Uniquement sur Twitter d'ailleurs, pas sur Insta et sur TikTok. Marrant, sur Twitter, il y a plus de haine. Hop. Ouais, je reçois beaucoup de messages comme ça. Là, récemment, la petite blague que j'ai faite sur le drama Pierre Chabrier, Sylvain Lévy, là. Petite vidéo, petite blagoune là. J'ai des. Ouais, arrête, t'as 95 ans, arrête, t'es gênant. Enfin, genre. Pour le coup, la vidéo a été vue 1,6 million de fois sur TikTok et il y a 3 commentaires comme ça, mais on les voit quand même, on les lit. Sur Facebook, ça doit être pire ? Je sais pas, j'ai pas Facebook. Facebook, c'est un peu comme le Minitel, non ? ce flanc sur notre champion était magnifique. Incroyable. En 2026, ce serait Gabriel Attal. De toute façon, tout est vu. Gabriel Attal, président de la République, Hatchoum. Waouh. T'es prêt à parier des sous là-dessus ? Vous avez des remèdes contre les aftes ? En Blas Drogon, en pharmacie, t'as des... ils vendent des petits gels là, qui parfois sont très efficaces, qui permettent de diminuer la douleur. C'est un peu antiseptique aussi, en vrai. C'est pas toi qui es gênant, c'est eux qui sont gênés. C'est trop mignon. Et puis, il y a les aliments qu'il faut éviter. Hein. Faut pas manger de noix, faut pas manger de certains fruits aussi. Et le temps, oui. Voilà. Mais il y a des trucs en pharmacie, comme des petits pansements, qui vont te faire passer la douleur, en fait, parce que ça peut être quand même très énervant. Ouais. Du citron, t'es sûr ? Ça va piquer, non ? Ok. Il y a la totesse qui dit pour les aftes, tu mélanges du miel naturel, pas trop liquide, avec du chaud de citron. C'est quoi du chaud de citron ? C'est un citron qui est un peu olé olé ? Qui est un peu caliente ? Comment tu sais que ce citron-là, c'est un peu un chaud ? Ça parle pas, un citron. Et tu laisses poser sur l'aft. Bon. Après, il faut trouver un citron qui est un peu chaud, quoi. Ça, à mon avis, c'est pas le plus facile, quoi. Ok. Bon, en tout cas, en pharmacie, si t'as une bonne pharmacienne ou un bon pharmacien, je pense qu'on trouvera un truc. Bon, vous savez un petit peu comment on en est au niveau de la gauche par rapport à ce gouvernement, c'est assez intéressant. Très joli titre de Libération, ce n'est pas le discours d'un roi, je crois que c'est un célèbre film, mais le discours d'un choix, la une avec François Bayrou. Oh, bon, regardez, le choix de la photo, c'est important, regardez la photo de Luma. Luma qui est un journal qui n'a pas beaucoup de sympathie pour François Bayrou. Oh, la photo est plutôt jolie. Bon, par contre, elle n'est pas sympa pour Macron. Macron, il est derrière, là. Ouais, la photo n'est pas tellement son avantage, là. Je pense qu'il fait avec sa main, là. Et la photo est plutôt OK, quoi. Mais regardez le... Il est au bord de la tombe, là, une de Libération, là. Hein ? Hein ? Bande de coquinous, va ! Mystère. C'est l'édito de Paul Quignot. Ouais, ça dit pas grand-chose de nouveau, OK. OK, bon, il se répète un peu ce qu'on s'est dit jusque-là. OK, d'accord. C'est totalement une rêve. Oh, putain, j'y ai pas pensé. Il y a Cholva qui dit ce titre. Le discours d'un choix, c'est totalement une rêve au fait qu'il soit bègue. Sugar Frog a raison. Oh, putain, quel enfer. Qui a enlevé mon message épinglé ? C'est peut-être moi. Oh ! Anzu, tu l'avais dit aussi ? Oh, mais c'est monstrueux ! François Bayrou est un ancien bègue. C'est quelqu'un qui a beaucoup, dans sa jeunesse, il est plus bègue. Mais c'est quelqu'un qui a été bègue et qui a dû lutter contre ce bégaiement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui parle très lentement. Moi, je sais, je l'ai interviewé quelques fois quand j'étais journaliste. Et c'est quelqu'un qui a un débit qui est très lent. Hein ? Quand tu comptes 5 minutes avec un gars, en interview, il faut un quart d'heure avec Bayrou pour dire les mêmes choses. Donc il a un discours qui est très lent, ce que certains interprètent par le fait que justement il est dans le contrôle de son verbe, justement pour parce que ce bégaiement est toujours sous contrôle. Voilà. Il y a Paul Imel qui dit quand on est bègue, c'est pour la vie. Aujourd'hui, il bégait pas du tout, mais il parle très doucement. Certains disent que ceci est à cause de ça. Donc moi, je le sais, mais le grand public ne sait pas que Bayrou est bègue, a été bègue. Mais si le titre de Libé. Mais non. Et le qui dit vous cherchez loin, là, c'est clairement lié au film et c'est tout. Je suis pas sûr. Mais c'est très méchant quand même. Pourquoi ce film ? Alors que justement, ce film, c'est sur un roi qui est bègue. Pardon, j'aime beaucoup Libé. Je trouve ça un peu méchant. Je suis pas. Moi, je valide pas. C'est quand même un handicap. Il y a des gens qui en souffrent. Écoutez, moi, je suis un peu gêné là. Je suis pas. Bah, Héroux, il a vu ça ce matin. Il a tout de suite compris. Je suis un peu gêné. Je sais pas. Oui. Ouais, c'est un peu, c'est un handicap en vrai. Comme très ennuyeux, quoi. Je sais pas si c'est méchant, le titre, le film est très amélioratif sur le bégaiement. Ouais. Ils ont peut-être pas, ouais. Non, je sais pas. Oui, le roi, il surmonte son bien, son bégaiement, ouais. Peut-être. Vous croyez que c'est un hommage à Bayrou? Ouais. Qui a surmonté son bégaiement? Ouais, je sais pas. Bon, passons. C'est pas ce qui est important, mais. Bon, je suis un peu gêné. Ok. Bon, ça. Bon, la droite essaie de peser. Ok, d'accord. Ok. Alors, pourquoi d'ailleurs Bayrou regarderait plus à gauche? Libération, il y a une espèce d'analyse là. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit ah, mais c'est sûrement, il va sûrement aller à droite. Voilà. Là, j'ai un extrait. LR le sait, écrit Libération. Donc la droite le sait. C'est bien à gauche que le match se joue sur le budget. Depuis le vote de la motion de censure, vous vous rappelez, début décembre, qui a fait tomber le gouvernement précédent. Plus question pour l'exécutif de parier sur la clémence du RN, Rassemblement National, jugé trop imprévisible. Le nouveau Premier ministre doit donc s'assurer d'un soutien sans participation à bâbord, donc à gauche de l'hémicycle, au minimum celui des socialistes. Ah, c'est parce que. Ah oui, on se souvient que Michel Barnier, lui, il a joué sa survie sur le fait que le RN, l'extrême droite, ne voterait pas la motion de censure. Et finalement, le RN a voté la motion de censure. Donc, du coup, nous explique Libération, il est logique que Bayrou cherche une autre assurance, non pas à l'extrême droite, mais à gauche. Okay. Supposant que LR ne vote pas. Et a priori, LR dit qu'ils ne vont pas trop voter. Une nouvelle motion de censure. D'accord. Ok, c'est un peu logique. Ok. D'accord. Ce que dit Libé, c'est que la droite est prête à mettre, contrairement au ton général où la droite est un peu en colère, la droite serait prête à mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Certes, pour la forme, la droite a fait monter la température à deux jours de l'allocution de Bayrou, ni abrogation ni suspension de la réforme des retraites à Gérard Larcher, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Mais ils sont prêts finalement à laisser passer ça. Voilà. En ayant d'autres lignes rouges. Pas de hausse d'impôts, par exemple, et un effort prioritaire sur la réduction des dépenses publiques, ponction budgétaire sur les collectivités locales limitées, et niveau de crédit sur les portefeuilles régaliens, police, justice, maintenu. Bon, à voir, on verra ce qui se passe. Ouh là 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 là. Merci Framboise. Je vois à l'instant... Attends. Cercal, Bayrou vient de claquer la porte au PS Live et Cravenius, épinglé par Framboise, 11h24 sur le site du Figaro, Bayrou annonce qu'il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. Alors effectivement, ça va pas leur plaire. Ça va pas leur plaire, à gauche. Pourquoi il le dit avant ? Voilà. Ok, à suivre. Mais il ne devait pas pencher à gauche. J'ai dit qu'on ne savait pas. J'ai dit qu'on ne savait pas qu'il fallait attendre 15 heures. Bon, le problème, c'est qu'il donne les infos avant. J'ai pas dit qu'il allait pencher à droite ou à gauche. J'ai dit qu'on ne savait pas. La preuve, les médias disent que ça penchait à gauche et là, il dit que non. On ne sait pas. Personne ne sait. Il n'y a que Bayrou qui sait. Et attention, le Bayrou de 15h, pas le Bayrou de... Quelle heure il est ? Pas le Bayrou de 11h43. Vous vous rappelez que François Bayrou, quand il a été nommé, le matin, tous les médias disaient « Macron a appelé Bayrou pour lui dire « ce ne sera pas toi ». Et c'était vrai. Macron avait appelé Bayrou pour dire « bon, tu t'attends à être premier, ce ne sera pas toi ». Voilà. Et moi, je vous ai dit ce matin-là, c'est de la politique, tout est possible, y compris que cet après-midi, on nous annonce que Bayrou est Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bayrou a été nommé Premier ministre. C'est de la politique, tout est possible. On verra ce qui se passe à 15h. C'est les déclarations officielles qui pensent. Est-ce que Bayrou, c'est vraiment ce que Bayrou pense ? Non, dame Sonia, je pense que non. Je pense que Bayrou est un politique et qu'il fait avec l'état des forces politiques en présence. Voilà. Intéressant en tout cas. Allez voir Jean Massier, je pense qu'on va se régaler. Alors, penchons-nous maintenant sur l'inquiétude de la droite dans l'hypothèse où la réforme des retraites serait suspendue, voire abrogée. Pourquoi le Figaro, qui est donc un journal de droite, sous la plume de Gaëtan de Capel, dit que ce serait une folle hypothèse. En haut de la liste, je lis, hein, extravagante des exigences du PS et des écologistes pour prix de leur non-censure, figure celle d'une suspension de la réforme. Hop, je vous ai pas mis la scène. Hop, Figaro, article. Suspension de la réforme des retraites. Hormis le RN, qui n'en fait cependant pas un casus belli, personne de bon sens ne défend l'idée farfelue de rouvrir une crise sur le sujet, dit le Figaro. Mais nous sommes en France, sans budget, sans majorité, ni autorité gouvernementale, où il faut apprendre à imaginer l'inimaginable. Au gré des discussions, cette hypothèse folle a donc fini par prendre corps, et on saura à l'issue de son discours de politique générale si François Bayrou se soumet ou non à l'oukase tondolo-faurien. Le Premier ministre qui tire depuis longtemps le signal d'alarme sur les retraites serait sage de placer ses convictions au-dessus des calculs politiques pour obtenir un fragile sursis. Sur le fond, si imparfaite soit-elle, estime le Figaro, cette réforme est cruciale pour préserver notre système par répartition. L'évolution démographique qui conduit de moins en moins d'actifs à financer de plus en plus de retraites impose de repousser l'âge de départ. Prétendre le contraire face à cette évidence arithmétique est pure démagogie, écrit le Figaro. La France restera au passage le pays d'Europe où la vie active prend fin le plus précocement à 64 ans. Supprimer la réforme, alors que le système recommande déjà à prendre l'eau, c'est aussi renoncer définitivement à redresser les comptes publics. Avec ses 6,1% de déficit et sa dette de 3300 milliards, la France, qui doit emprunter plus de 300 milliards sur les marchés en 2025, n'a d'autre choix que de restaurer ses finances. Pour prix de son laxisme, elle paie aujourd'hui 3,5% d'intérêt, ce qui est énorme, contre 2,9% en décembre. Les marchés financiers ont aussi leur ligne rouge. La position de la droite, qui est ici résumée par le Figaro, c'est cette réforme des retraites, on ne peut pas la remettre en question. Pourquoi ? Elle n'est pas parfaite, mais elle mérite de faire économiser de l'argent à la France parce qu'on n'aurait plus les moyens, notamment parce qu'il y a moins d'actifs et trop de retraités, et ça va durer un petit moment, pour financer ce régime de retraite. Ça, c'est l'argument de la droite, c'est aussi l'argument du Figaro, mais on ne va pas refaire tout le débat sur la réforme des retraites. Vous connaissez ce sujet. Salut Moulbit. Tiens, le Figaro va plus loin, bien sûr. Oh, c'est mignon. Il y a Twisted Art qui a dépensé ses points de chaîne. Parce qu'on peut, choisir mon repas du midi avec les points de chaîne ici. Et donc, Twisted Art a dépensé ses points de chaîne pour me faire manger ce midi du jambon de Bayrou. Je voulais juste me débarrasser de mes points de chaîne. Oh, mais tu t'en vas. Merci, moi, là, oui. Merci, Sandelven. Merci encore, Témagnus. Tu t'en vas, Twisted Art ? Tu t'en vas ? Tu te débarrasses de tes points de chaîne, tu t'en vas ? Ça n'existe même pas en plus. Je sais pas, j'ai racheté le charcutier tout à l'heure. Je vais demander. Bonjour, est-ce que vous avez le jambon de Bayrou, s'il vous plaît ? Je vais demander. Non, je voulais juste m'en débarrasser. Hein ? Ok. Alors, qu'est-ce que coûterait une réforme, une suspension de la réforme des retraites ? Quel sera le prix à payer pour assurer la survie du gouvernement de Bayrou ? Il pourrait se chiffrer en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros. Voulant éviter le même sort que son prédécesseur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Michel Barnier, le Premier ministre doit convaincre, au-delà de sa majorité à l'Assemblée, merci Digorix pour le prime, tu régales, pour échapper à une motion de censure. Un vrai saut dans le vide avec comme parachute l'éventualité d'une suspension de la réforme des retraites, on en saura plus cet après-midi, un moyen d'apaiser une partie de la gauche, voire aussi le RN qui réclame tous deux l'abrogation de ce texte critiqué, portant le recul de l'âge légal de départ de 62-64 ans. l'âge légal de départ, on va rappeler. Hein. 64 ans, c'est l'âge légal à partir duquel tu peux partir en retraite. Ça dépend du nombre d'années de cotisation. Moi, j'ai, comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait des études supérieures. Aujourd'hui, je ne pars pas à 64 ans, je pars à 67 ans hein, pour une retraite à taux plein. Donc, c'est l'âge légal de départ à la retraite, quand c'est possible, quoi. Quand on a commencé à travailler tôt. Choix coûteux, estime Le Figaro, économiquement et politiquement, et difficile à mettre en place. Le PS propose de suspendre la réforme pendant 6 mois, gel qui coûterait 2 ou 3 milliards d'euros, selon les socialistes. Un économiste n'est pas d'accord. Il dit que la réforme rapporte en gros 25 milliards d'euros bruts hein, par an, 20 milliards en cotisations et 5 milliards de prestations économisées. Échelonnée sur 8 ans, chaque année où elle s'applique représente donc environ 3 milliards d'euros. Le suspendre, c'est renoncer à cette manne annuelle, soit 15 milliards d'euros d'ici à 2030. Depuis le 1er septembre 2023, l'âge de départ est d'ailleurs déjà rehaussé chaque année de 3 mois. Ça, c'est les détails. Okay. Au-delà du coût important de ce revirement politique, donc là, ils sont sur les milliards que ça coûterait. Il revient l'article ou pas ? Revient un petit article. Revenir, même momentanément, sur l'âge de départ à 64 ans reviendrait à faire fi d'une réalité démographique indiscutable. Les populations partant à la retraite sont plus nombreuses que celles actuellement rentrant en activité. Le financement du système de retraite ne peut donc plus être assuré par les nouvelles générations. Le Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, anticipe même un déficit du système de retraite d'environ 0,4% du PIB en 2030, soit 14 milliards d'euros. Mesure phare ayant fait descendre des millions de Français dans la rue. L'âge de départ est aussi l'arbre qui cache la forêt. Allongeant l'âge d'ouverture des droits à la retraite, cette réforme élève à moyen terme le niveau de l'emploi et donc l'activité économique globale et en conséquence les recettes fiscales et sociales bien au-delà des seules cotisations retraite. C'est ce que dit le président du COR. Après, ils disent que techniquement, légalement, suspendre la réforme des retraites, ce serait compliqué, mais ça c'est autre chose. Ok. Bon, on retrouve les arguments pour contre la réforme, quoi. Sauf que la réforme, elle avait passé, elle a été adoptée par 49-3 et aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on l'enlève ou pas, quoi. Oui, mais on est beaucoup plus productif qu'avant, ce qui couvre la différence actif-retraité. Bah, c'est pas la productivité qui compte, c'est le montant des cotisations. C'est le montant des cotisations. Je suis pas économiste, spéculos, mais si de la productivité fait que tu fais en 35 heures ce que nos ancêtres faisaient en 50 heures, tant mieux pour tout le monde. Mais au niveau de tes cotisations, comme les salaires n'explosent pas, ils demeurent peu ou prou le même, quoi. C'est les cotisations qui payent les retraites des gens qui sont à la retraite aujourd'hui, quoi. Des retraites qui sont plutôt... Merci Sébastien. Ouais, Bayrou a annoncé à l'instant pas d'abrogation et de suspension de la réforme des retraites. Ouais, Grimm, on a vu ça tout à l'heure, ouais. Sur le site du FIARO, là, ici. Alors, c'est Amgar qui dit « La productivité n'a rien à voir avec les cotisations des retraites. Plus tu travailles longtemps, plus tu cotises, plus il y a d'argent dans la caisse retraite, mieux tu maintiens les revenus retraite d'aujourd'hui. » Pourquoi ils n'utilisent pas plutôt une augmentation des impôts ou taxes au lieu de l'âge ? C'est un débat, c'est ce que souhaite la gauche. La gauche dit oui, d'accord, ok. La gauche dit pas qu'il n'y a pas de problème démographique, c'est-à-dire pas assez de cotisants pour un nombre de retraités important. La gauche dit pas ça, elle ne nie pas ça. Elle dit oui, il y a un problème passager. Il y a un problème passager, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette période où les cotisants sont pas assez par rapport aux retraités, c'est momentané. Quand les actifs d'aujourd'hui, qui sont moins nombreux que les retraités, en gros, vont arriver à la retraite, bah, ils seront moins nombreux. Et donc, bah, les gens qui vont arriver, à condition que le taux de natalité, on va en parler tout à l'heure, ne s'effondre pas, ça c'est une vraie question, parce que justement, le problème c'est qu'il est en train de s'effondrer, le problème à un moment va disparaître. Donc c'est un moment, et la gauche dit, peu ou prou, je résume à mort, bah, ce moment, il suffit d'aller chercher l'argent ailleurs. Alors, Alors la droite dit en diminuant les dépenses, et la gauche dit non, on va augmenter les impôts sur les particuliers, les plus riches notamment, et les entreprises, les plus riches notamment. Ça, c'est vraiment une ligne de fracture entre la gauche et la droite dans notre pays, quoi. Voilà. Je résume vraiment à l'extrême, quoi, mais bon, c'est pas si éloigné de la vérité pour reprendre la philosophie des deux camps, quoi. Voilà, comme le dit Sopanin, c'est pas passager vu qu'on fait moins d'enfants maintenant, c'est vrai. Le problème, c'est passager, ça devrait être passager, sauf si le taux de natalité continue à diminuer fortement et régulièrement, parce que du coup, à chaque fois, il y a un delta entre le nombre de cotisants et le nombre de gens à la retraite. Il ne s'effondre pas, le taux de natalité ergonaut, il baisse très fort, mais il ne s'effondre pas. On est passé quoi, de 2,1 à 1,6, c'est ça? Je sais pas. Le taux de natalité pourrait reprendre à la hausse, on ne sait pas. C'est mal parti. On va en parler, on a un article là-dessus tout à l'heure. Après, sauf si certains veulent s'y mettre dans le chat. Hein. Je ne sais pas, vous êtes combien là. 3771, si vous y mettez vraiment à mort, là, le petit groupe là. Il y a moyen de faire bouger les chiffres, mais faut y aller, quoi. Ah, j'allais mimer. La chute du joueur français. J'allais mimer ce que j'étais en train de dire, là. Ça va, j'ai encore un peu de présence d'esprit. J'ai failli vous mimer le truc, là. Too old, Nawal Paris, il n'y a pas d'âge. Bam. Pardon, excusez-moi. Donc, on parlera tout à l'heure. Sam, beaucoup trop détendu sur son live. J'avoue. Comment on fait, Esprit? Je t'envoie un lien, Esprit. Je t'envoie un lien, un site. Tu vas voir, il y a plein d'images, plein de vidéos. Petite danse sensorielle. J'ai la ref, Moulbit. C'était super. Moulbit, c'est un viewer, c'est même un modérateur pour ceux qui se posent la question. Pourquoi je dis Samuel, c'est comme un gros obsédé du zizi. Il n'arrête pas dans son chat de dire Moulbit. C'est un viewer, c'est un modérateur. Qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'il s'appelle comme ça, je vais pas l'appeler Moulbot ou Moulbat ou Moulbut. C'est Moulbit. C'est son nom. Là, je pense qu'il a fait exprès pour me faire chier en vrai. Maintenant, il est même modérateur. Voulez-vous que je fasse? Hein? On est foutu. Non, ma grosse, je ne dirais pas ton pseudo, il est pire. Bande d'obsédés. Ah, je pourrais ne pas prononcer le T final, Moulbi. Je pourrais dire Moulbi. Ah, il a mis deux T exprès. Merci Digorius. Digorux. Il a mis deux T exprès. Petit coquin, quoi. Il y a des streamers qui font ça, qui font quoi? Ah, qui prononce pas le T? Ah, c'est mignon. Sinon, je prononce pas le L. Moubit. C'est pire. Putain, c'est pire. Moubit. C'est pire. Oh là là. Bon, on va passer à autre chose. Quoique... Putain, c'est affreux ce que je vais faire. On va passer à autre chose. Quoique non. Puisqu'on va parler de l'abbé Pierre. Ok, la transition est atroce. Cette chaîne est en train de partir à volo. Au nom de Dieu. Bon, tant pis, je reprends mon sérieux. Agression sexuelle, nouvelles accusations contre l'abbé Pierre. Vous allez me dire encore, oui, encore. Plus on avance, plus on apprend des dingueries. Sur le coup, j'ai vu l'article, je me suis dit, l'abbé Pierre, on sait. Il y avait la façade clean, celui qui s'occupait des autres. Et on a appris qu'il y avait la façade dark, avec un monsieur qui était quand même très problématique. Bon, sauf que je lis l'article et je me dis, c'est pour répéter ce qu'on sait déjà, sauf qu'en fait, non. Plus on avance, plus on apprend des trucs, des dingueries. Impardonnable, titre Le Parisien. Prédateur, manipulateur, ainsi se dessine l'abbé Pierre dans le dernier rapport d'Emmaüs, qui embrosse un portrait effrayant. 9 nouveaux témoignages ont été recueillis. Alors, on va rappeler les faits, déjà. La statue de l'abbé Pierre, figure tutélaire du mouvement Emmaüs depuis 7 décennies, s'est fracassée dans la poussière en juillet dernier, déboulonnée par les révélations de 7 femmes sur des agressions sexuelles du prêtre résistant. En septembre, 17 nouveaux témoignages de femmes. Donc 7 femmes déjà. Puis 17 témoignages. On a ajouté un clou d'infamie sur le cercueil. Elles ont raconté des abus et un viol. Et là, vous avez à nouveau, combien ? 9 nouveaux témoignages. Voilà. Un troisième rapport dont le Parisien a eu connaissance dévoile 9 nouveaux témoignages et des éléments inédits qui dessinent le portrait d'un prédateur sexuel, capable des manipulations et de menaces. L'icône des luttes sociales semble avoir choisi ses proies adultes et enfant, tout au long de sa vie, avant même la notoriété, et au crépuscule de ses jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Putain, quel enfer. Selon l'enquête commandée par la direction d'Emmaüs, l'abbé Pierre est accusé d'un viol sur un petit garçon, dont le nom demeure secret. Il précise qu'un homme a fourni les éléments permettant d'attester la véracité de son témoignage. Une femme de la famille du prêtre, de la famille de l'abbé Pierre, a également confié des abus à caractère incestueux, commis à la fin des années 90. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, abus à caractère incestueux ? Selon le récit, il l'a à plusieurs reprises touché sa poitrine, l'a contrainte à un baiser forcé et lui a tenu des propos à caractère sexuel. Merci Guy Brush. La cellule d'écoute a par ailleurs eu connaissance de l'existence d'au moins une autre personne parmi les membres de la famille de l'abbé Pierre, selon le rapport, mais son nom n'est pas comptabilisé parmi les témoignages. Voilà. Les autres victimes désignées par des lettres au fil des 19 pages présentent des profils différents, mais livrent des agressions qu'on dirait calquées du personne à l'autre. C'est-à-dire que ces personnes qui ne se connaissent pas, qui a priori ne sont pas concertées, racontent la même chose. 2 agressées par l'abbé dans les années 90 et 2000 étaient soignantes à l'hôpital. L'une attendait un bébé quand il a touché son ventre et sa poitrine. Une autre femme âgée d'une 20aine d'années travaillait pour Emmaüs France, à Charenton. Voilà. Subitement, l'abbé Pierre a touché ses seins et a introduit brutalement sa langue dans sa bouche. Elle a démissionné, choquée. Une autre femme, tout juste majeure, a aussi quitté son emploi dans un hôtel après que l'abbé lui a attrapé les seins de façon violente, a touché son entrejambe et mis sa main dans son pantalon. Une autre femme, on ne la que les initiales, participant à un camp de jeunes, relate à son tour des attouchements sur les seins, des baisers forcés. J'ai plein d'exemples comme ça. Une autre femme, hôtesse de l'air dans les années 60. Bon, bref. Là, elle disait que l'abbé Pierre passait le vol à lui toucher les fesses. L'hôtesse est décédée sans jamais avoir été crue. C'est son fils qui a porté sa parole pendant la mission d'écoute. Parce que manifestement, elle avait dénoncé les faits, mais personne n'a voulu l'écouter. Alors, le Polaroid, l'appareil photo qui fait des photos instantanées, là, que l'abbé ne quittait jamais, il avait toujours un Pola avec lui, hante les pages du rapport. Pourquoi ? Une victime a raconté qu'après l'avoir embrassé de force et l'avoir touché la poitrine chez lui, l'abbé Pierre lui a intimé l'ordre de prendre la pause et il sortait son appareil. Voilà. Le prêtre a rangé le cliché dans un tiroir contenant une pile de photos similaires, comme s'il prenait des photos de ses victimes. Je me suis dit, dit cette femme, que toutes ces femmes avaient vécu la même chose que moi. Cela ressemble à des trophées, dit une psychologue et experte judiciaire. Un besoin d'immortaliser le moment pour se le repasser plus tard. Au total, le dispositif d'écoute a recensé en 6 mois 33 témoignages directs d'abus commis par l'abbé Pierre. Le cabinet a par ailleurs identifié plus d'une 20aine d'autres faits, portant à au moins 57 le nombre de victimes identifiées. J'entends les gens qui me disent, et vous avez raison dans le chat, il est mort, il ne peut pas se défendre. Qu'est-ce qui nous dit que tout ça n'est pas inventé ? Oui, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En l'absence d'un procès, il est considéré comme innocent. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence dans le droit français. Mais, à un moment, on a le droit de lire ces témoignages de ces victimes quand on voit qu'il y en a 57. et que il est quand même assez difficile d'imaginer que 57 victimes identifiées se soient entendues pour inventer les mêmes choses. Hein ? Avec quel intérêt ? Quel intérêt ? Sans qu'on sait que toutes les victimes n'ont pas pu ou voulu être entendues. Il y a des victimes qui ne veulent pas parler. Par exemple, puis il y a celles qu'on n'a pas voulu entendre. Par exemple, il y a un jeune homme qui a écrit un bouquin. Je crois que c'était un anglais. Un site, cette accusation. Imprimé depuis 2009 sous la couverture bleue d'un ouvrage titré The Discovery of Richard Hates, autobiographie en anglais qui retrace le parcours d'un jeune juif aujourd'hui décédé, caché par des religieux catholiques durant la Seconde Guerre mondiale. La page 61 ressuscite un dortoir de 80 lits où il était réfugié, dans un château au sud de Paris dirigé par les frères Capucins. Il mentionne sans s'étendre dans ce livre des pédophiles dans l'entourage des jeunes garçons et nomme l'abbé Pierre dans ce livre qui venait au dortoir chaque nuit pour assouvir des pulsions pédophiles. Le livre est sorti en 2009. Voilà. L'auteur cite plus loin son voisin de lit âgé de 12 ans, pétrifié et silencieux quand il était abusé par l'abbé Pierre. Le rapport cite l'existence d'une autre suspicion d'agression d'un garçonnet de moins de 10 ans avant 1965. Ces témoignages de mineurs s'ajoutent à ceux déjà égrenés dans le deuxième rapport, notamment des baisers forcés commis sur une fillette de 8 ans en 74 et 75. Le prêtre l'avait aussi questionné sur la couleur de sa culotte. Ça fait beaucoup quand même. C'est intéressant parce que l'abbé Pierre manifestement faisait pression sur les victimes. Le rapport d'Emmaüs dit « L'abbé Pierre avait mis en place des mécanismes de mise sous silence des victimes, notamment par des propos ou des comportements menaçants. » Voilà, il y a une lettre de l'abbé Pierre qui est versée au dossier. Voilà. Un enfant, par exemple. Voilà. Donc, qui a grandi depuis, bien sûr, mais... témoigne, il me dit à l'époque, alors il me dit à l'époque qu'il est très puissant, que les gens l'aiment, qu'il ne faudra jamais au grand jamais parler de ce qui vient de se passer, qu'on ne me croira jamais et que j'aurai de gros problèmes. Malgré ces pressions, plusieurs victimes, attention, ont indiqué avoir parlé de la situation à l'époque à leur entourage, sur le moment, mais disent que personne ne les a crus. Merci Stéphane Corr, merci Tidrao. Qui est cette dame ? C'était en 1988, c'est un témoignage. Là. 76 ans, l'abbé Pierre est au fait de sa gloire. Esther Romero, journaliste suisso-péruvienne, cette dame que vous voyez, donc c'était en 88, a décroché une interview dans un hôtel de Genève où l'abbé Pierre réside pour quelques jours. Mais rien ne se passe comme prévu, à peine le quinquagénaire est-il entré dans la chambre que le prêtre se lève et se colle à elle. J'ai senti qu'il était en érection, se souvient-elle. Il lui frotte les seins sur son pull avant de lui mettre la langue dans la bouche. Grande et énergique, Esther aurait pu coller au sol ce vieux monsieur, mais sur le moment, elle est en état de choc. Évidemment, tu t'y attends pas. T'es journaliste, tu viens interviewer l'abbé Pierre, tu t'attends pas à ce qu'il te saute dessus, quoi. Hein ? Je peux comprendre la surprise. L'ex-journaliste et interprète désormais âgé de 88 ans, et l'une des victimes identifiées de l'abbé Pierre, Henri Grouès, son patronyme. Hein. Si Esther a accepté de nous parler aux Parisiens, c'est pour dire sa colère quand on lui apprend que la liste des victimes s'est allongée. En 2007, à la mort de l'abbé Pierre, elle s'était confiée à un grand journal péruvien, voilà. Et le témoignage n'avait déclenché aucune enquête. Cet article n'a pas dépassé les frontières péruviennes, explique Esther. L'été dernier, quand sortent les révélations des nombreux abus commis par le prêtre, Esther est bouche bée. J'ai été surprise de ne pas être la seule. C'est aussi ce qui explique pourquoi subitement il y a plein de témoignages. C'est parce qu'il y a plein de gens, plein de victimes qui ont peut-être pensé qu'elles étaient seules. Et quand elles ont découvert que finalement d'autres avaient été victimes, ça les a peut-être aidées, poussées à témoigner à leur tour. J'ai été surprise de ne pas être la seule. Je croyais que c'était un vieux dément sénile qui m'avait agressée, alors qu'en fait on a laissé un fou, un vrai malade mental faire du mal autour du monde. Surtout, elle en veut à l'Église française. Comment a-t-elle pu se taire ? C'est chaud, hein ? Voilà. Donc voilà pourquoi je vous ai lu cet article. Ce matin, je me suis dit, bon, bah, on connaît déjà l'histoire. Quel intérêt ? Non. Non, il y a plein de témoignages qui se rajoutent. Donc c'est chaud, en vrai. Bon, voilà. C'est pas une actualité très réjouissante, mais c'est incroyable. D'imaginer que cet homme qui a été révéré comme un saint par les Français et les Françaises, pour ce qu'il faisait pour les autres, parce que la dimension de son œuvre caritative ne peut pas s'effacer, était aussi cet homme-là. Voilà. Ouais. Diaspam, tu l'auras sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à partir de 17h. Le replay, t'inquiète. Il y a Gamet qui dit c'est peut-être ça le danger d'idolâtrer des humains encore plus quand c'est des psychopathes. Je pense que tu as raison quelque part. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut idolâtrer personne. L'abbé Pierre et Mister Gross Esprit, exactement. Vous êtes plusieurs comme Somme French à poser la question. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, il a fait du caritatif pour soulager sa conscience ? Si c'est le cas, c'est ignoble. Ça, je ne sais pas. Il faut être dans la tête de l'abbé Pierre. Voilà. Bon, voilà, pour cette histoire, comme ça, vous avez les faits. Et vous savez pourquoi les médias en parlent. Alors tout à l'heure, à la faveur du débat sur la réforme des retraites qu'il fallait suspendre, pas suspendre, abroger, pas abroger, on a parlé de la dénatalité, du fait que les Français faisaient de moins en moins d'enfants, et l'opinion, journal libéral, journal proche des milieux économiques, nous dit c'est grave. Est-ce que c'est grave ? Lisons un peu cet article et échangeons là-dessus. La dénatalité, accélérateur du déclin français, carrément, nous dit l'opinion. La croissance démocratique frappe le pays. Quelles conséquences économiques ? Quel impact sur les retraites ? Dans un livre choc, l'économiste Maxime Zbahi explore plusieurs solutions. Je zoome un petit peu. Le bilan démographique 2024 de l'INSEE paraît ce mardi. Il y a une actualité aujourd'hui. On a le bilan démographique de l'INSEE qui doit confirmer les tendances observées depuis 2011, soit des naissances en baisse et des décès en hausse à cause de la mortalité des générations du baby-boom. Le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès dans notre pays, atteint son plus faible niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Longtemps, la France se berça de sa vigoureuse natalité. Longtemps, on était très fiers en France parce qu'on avait un des meilleurs taux de natalité européens avec l'Irlande, avec plus de 2,1 enfants par femme. Seuil de renouvellement des générations, le pays se félicitait de son exception nataliste dans un Occident en déclin. Il y avait les autres, ceux qui ne s'allaient pas, et nous, ben on faisait des enfants. La chute amorcée depuis 2011 passa d'abord inaperçue et pourtant, en bientôt 15 ans, le nombre de naissances a diminué de plus de 20%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Oh, Cyril, je ne peux pas dire ça. Comme par hasard, le taux de natalité baisse depuis que l'abbé Pierre est mort. Mais Cyril m'était déchaîné. Merci Big Badaboum. Merci Stéphane Corr. Mais Cyril, mec. Mais c'est un habitué, Cyril, qu'est-ce qui lui arrive ? Mais ça va pas ! Mais tu peux pas dire ça ! Je sais que c'est une blague de Cyril, mais est-elle de mauvais goût ? Incroyable, ça. Il est fou. Bon, ça baisse. 20% de baisse. On était à 2,1, on est aujourd'hui à 1,66 enfants par femme. L'année 2024 s'annonce pire que la précédente. Voilà. 2023, 678 000 bébés nés, 639 000 aînés qui ont disparu. Il y a quasiment plus de morts en France que de naissances. Bientôt, le solde naturel sera négatif. Ça provoquera peut-être un choc psychologique. Oh, Clément Polito, son message a été supprimé. Vous êtes en train de lâcher des dingueries sur l'abbé Pierre, là. Anticipe l'économiste Maxime Sbailly, qui a donc écrit un livre qui vient de sortir, « Les balançoires vides ». C'est triste, ça. Le piège de la dénatalité. En janvier 2024, Emmanuel Macron, s'en souvient, avait appelé un réarmement démographique, quand même la pire expression du siècle. Attends. Le réarmement démographique. Ça, pour donner envie de faire des enfants, vraiment, on peut dire que c'est la bonne expression. Chapeau, je ne sais pas qui a pondu ce truc-là, mais c'est quand même affreux. Bon, ça n'a pas du tout marché d'ailleurs. Donc, il avait annoncé un grand plan contre l'infertilité et une refonte du congé parental en un congé de naissance. Sauf qu'en fait, bon, rien n'a vraiment été mis en place. Des grands mots pour des mesures minimalistes, explique l'économiste, qui montre que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, l'économiste parle de la question migratoire, dont on parle beaucoup aussi, hein, avec cette constante, rappelée par Maxime Sbailly, en matière d'immigration, les économistes ont trop souvent tendance à mépriser la question de l'identité, hein, tandis que les identitaires font semblant d'ignorer la question économique. C'est-à-dire qu'en fait, l'immigration, on le sait, est une réponse à un pays qui ne fait pas assez d'enfants, hein, disent les économistes, ah, c'est bon pour les emplois, pour la croissance, etc. Et puis, à l'inverse, vous avez les identitaires qui font, eux, semblant d'oublier la question économique en ne se penchant que sur la question identitaire. L'économiste nous rappelle que dans l'immigration, il y a ces deux aspects-là. Voilà. Je lis l'article. Bon, on n'est pas le seul pays touché par ça. De Pékin à Rome, en passant par Budapest et Tokyo, tous les gouvernements, l'actuel, l'apprennent actuellement à leurs dépens. La natalité n'est pas seulement une question d'argent public. De fiscalité, d'infrastructure, d'institutions, de climat, de conditions économiques, de prix immobilier, de mœurs, de culture, de tradition, c'est tout ça en même temps. J'adore cet extrait. C'est-à-dire qu'en fait, certains pourraient dire mais c'est simple, il suffit de relancer les politiques natalistes, plus d'allocations, un meilleur congé parental. Certains diraient, je reprends l'article, que c'est aussi une question de fiscalité, d'infrastructure, de crèches, d'institutions, de climat, de réchauffement climatique, de prix immobilier, de culture, de tradition. C'est autant de choses qu'on peut évoquer régulièrement dans le chat. Et en fait, cet économiste dit, ben oui, en fait, c'est tout ça. C'est tout ça ensemble. Aucun des pays riches qui ont tenté de relever sa fécondité au-dessus du seuil de renouvellement de génération n'y est parvenu sur la durée. Dans les pays de l'OCDE, on observe même une relation inverse entre l'argent public dépensé en prestations familiales et le taux de fécondité. Ça a commencé à baisser en 2011 en France. Au début, on n'en a pas trop parlé parce que c'était lent et progressif. Et l'économiste écrit, plus la France vieillit, plus les actifs trinquent. On retrouve ici le risque autoréalisateur du piège de la basse fécondité. Le vieillissement appauvrit les jeunes générations, qui par conséquent font moins d'enfants pour maintenir leur niveau de vie, ce qui réduit encore les naissances et accélère le vieillissement. Par un cruel cercle vicieux, la dénatalité devient cause et conséquence du vieillissement démographique. Ce qui est incroyable, c'est que l'impuissance des pouvoirs publics les conduit parfois à développer des initiatives aussi loufoques que désespérées. Singapour a déclaré le 9 août nuit nationale pour encourager les couples à batifoler par devoir patriotique. Le 9 août à Singapour, faut y aller, faut donner, c'est la nuit nationale. C'est la nuit de la baisse, à un moment il faut dire ici, on dit les termes. Voilà. En Russie, dans la région de Oulianovsk, le 12 septembre est férié pour permettre aux jeunes de fêter la journée de la conception. C'est la journée de la baisse aussi, en Russie. Voilà. Incroyable. Évidemment, ni à Singapour, ni en Russie, ça a marché. La voie de l'immigration est une rustine pragmatique, hein, ramener des actifs en âge de travailler et de cotiser, mais hypersensible, pour les raisons que vous savez, et temporaire, qui traite les symptômes économiques de la dénatalité sans les guérir, estime cet économiste. La voie de la robotisation est une ligne de crête entre désespoir démographique et espoir technologique. Et son potentiel économique est incontestable, mais encore insuffisant pour contenter des besoins trop humains. Joli. Recours à l'immigration, recours à la robotique, mais c'est des solutions qui parfois créent des problèmes aussi, explique selon l'économiste. Pas mal ce papier. Alors, les jeunes, vous êtes jeunes, vous. La plupart, vous êtes plus jeunes que moi ici. Hein, ici, René, hello Samuel et tout le monde. Je regarde le chat depuis ce matin. Je ne peux pas interagir. Et oui, comme bon père de famille, je m'occupe en même temps des tâches ménagères. GG à toi. Je voulais juste dire que c'est. Oh, merci. Que c'est un des meilleurs live ever. Samuel, tu es en roue libre et c'est tellement drôle. Oh, je suis en roue libre depuis longtemps, ici, René. Les jeunes. Une petite musique, hélas récurrente, dans le débat public, accuse les jeunes, tiens, je monte un petit peu la lumière, d'être devenus trop individualistes, trop matérialistes, trop égoïstes pour penser à fonder une famille. La dénatalité, selon certains vieux, serait dans les têtes et indépendante du contexte. On entend régulièrement ces clichés, vieux comme le monde, de la part de personnalités plus enclines à pointer et exagérer les défauts de la jeunesse qu'à avouer les difficultés économiques inédites auxquelles cette jeunesse est confrontée. Les vents économiques lui sont bien moins porteurs que pour les générations précédentes nées après-guerre. Croissance évaporée, crise à répétition, vieillissement démographique et logement inaccessible, vous êtes très nombreux à me parler du prix des logements, constituent autant de frais, de freins sur les projets d'avenir. Quand vous voyez le prix, dans la plupart des villes aujourd'hui, d'un loyer ou d'un achat, pour les familles, la situation est bien plus difficile qu'elle n'a été il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Ben, moi qui ai l'âge d'avoir vu tout ça, je le sais. C'était déjà compliqué d'acheter un appartement à Paris il y a 30 ans. Aujourd'hui, à part les gens qui ont des sous familialement, un primo-achat, il est quasiment impossible. Même quand tu as deux salaires. C'est une dinguerie. Vu sous cet angle, la baisse continue des naissances doit aussi être interprétée comme un indicateur avancé de la précarisation des ménages français. Et notamment des jeunes ménages. Pour paraphraser Bernanos, quand la jeunesse se refroidit, la natalité claque des dents. Hannah Arendt, philosophe allemande, plaçait la natalité au centre de la pensée politique précisément parce qu'elle renouvelle l'espoir dans l'humanité et parce que les hommes, je cite Hannah Arendt, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour agir. Il faut agir, mais pas n'importe comment. L'infécondité volontaire doit être respectée. L'économiste rappelle, et il a raison, que cette situation ne doit en aucun cas nous amener à faire pression pour que les gens fassent des enfants. Tu ne veux pas avoir d'enfants, c'est ton droit. Et personne ne doit te questionner là-dessus. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. On peut avoir la fibre paternelle, on peut avoir la fibre maternelle, on peut construire un chemin de vie en se disant qu'on veut des enfants, on peut construire un chemin de vie en se disant qu'on ne veut pas d'enfants. Voilà. Et personne ne doit être interrogé, questionné sur ce sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Voilà. Donc, laissons les gens tranquilles, ceux qui ne veulent pas d'enfants. Et en revanche, ceux qui veulent les enfants, bah, laissons-le tranquille aussi. C'est-à-dire que de la même manière qu'on ne doit pas interpeller des gens qui ne veulent pas d'enfants en mode « Ah, tu fais pas d'enfants ?» De la même manière, on ne doit pas dire aux gens qui ont deux enfants, trois enfants ou quatre enfants en disant « Ah, tu fais des enfants !» Vous voyez ? Moi, je pense qu'il faut laisser tout le monde tranquille, quoi. C'est tellement personnel. C'est tellement la conséquence d'un chemin de vie personnel. Voilà. Bon, je dis pas ça parce que je vais en faire 17. Hein. Donc, l'infécondité volontaire doit être respectée, résume cet économiste. C'est l'infécondité involontaire qui doit être combattue. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'écart flagrant entre le nombre d'enfants que les Français font et le nombre d'enfants qu'ils aimeraient avoir n'incrimine pas le désir d'enfant en tant que tel, mais bien les possibilités de sa réalisation. Moi qui ai beaucoup lu sur le sujet ces dernières années, je me suis rendu compte d'un truc. Quand tu regardes les chiffres et les trucs, c'est pas tellement le désir d'enfant qui est problématique en France. C'est-à-dire que, peu ou prou, les gens veulent à peu près faire autant d'enfants qu'avant. Peu ou prou. Voilà. Quand tu demandes aux Français combien d'enfants voulez-vous avoir, voilà, et que tu regardes le nombre d'enfants que les Français font, il y a un delta. C'est-à-dire, il y a le souhait, voilà, et il y a la réalisation. Et entre les deux, il y a un truc qui ne va pas. Et le truc qui ne va pas, eh ben, c'est clairement le contexte économique, socio-économique, le loyer, le coût de la vie, etc. Voilà. Très bien ce dossier. C'est dans l'opinion aujourd'hui. Je vous dis là-dessus, j'ai assez parlé. Le prix d'une voiture 6 places, dit Moulbit. Le prix d'une voiture tout court, hein. Trop cher les bagnoles. La question c'est comment tu vas les nourrir, payer leur étude, Julius. Streamer, baby. Streamer. Merci Bazertix pour le prime. Merci Mister Everyone. Il y a des dizaines de couples qui meurent en avoir mais qu'on empêche d'en avoir pour des raisons idéologiques, me dit la Mandalorienne. Des femmes seules aussi. Si on veut que la natalité augmente, il faut arrêter de penser comme au Moyen-Âge et donner à celles et ceux qui en veulent les moyens de le faire. Tu as 200% raison. Voilà. 5 ans que je suis en PMA, me dit Min Moka, et la France ne peut plus rien pour moi car je suis trop vieille, j'ai 41 ans. Ben, ça va pas. Croissance sociale, trop occupée à être pauvre pour faire les enfants, désolé. Mais je l'entends complètement ça. Streamer me dit défécateur officiel, ça fait pas tout. Moi, ça me donnerait les moyens de nourrir 0,04 enfants. Défécateur, bordel. Faut qu'on parle. Je vous lis. Alors. L'argument de l'écologie. Je l'entends, Mario, hein, Mario de Pas Métal. Le monde qui brûle et l'extrême droite au pouvoir, ça vous donne pas envie de faire les enfants? Vous êtes bizarre. J'entends ces arguments. Ça dépend comment tu les élèves, ces enfants. Ça dépend quelles clés tu leur donnes pour comprendre le monde dans lequel ils sont. Si tu fais des enfants qui vont prendre l'avion tous les deux jours, qui sont des gros réacs, effectivement, ça va pas arranger l'état de notre planète. Mais si à ces enfants tu donnes les clés pour être des citoyens beaucoup plus vertueux que nous sur un plan environnemental, qui vont beaucoup plus respecter la planète et qui vont peut-être au niveau de leur pensée plutôt améliorer les choses que les abîmer, eh ben ces enfants non seulement ils vont pas abîmer la planète, mais ils vont plutôt même la restaurer par rapport à nous. Tout dépend de qui seront tes enfants en fait. C'est une question d'éducation. Samuel, faire des enfants pour qu'ils se battent toute leur vie juste pour vivre, c'est horrible. Mais c'est notre cas à tous, Terlopop. On vit dans un monde qui est super dur, en fait. J'espère qu'un jour, la société sera organisée différemment et qu'on ne vivra plus pour travailler. Mais c'est le cas depuis la nuit des temps, quoi. Espèce de combat que tu décris, quoi. Donc, si tout le monde s'était dit ça depuis longtemps, quand il a été, contrairement au discours dominant, je pense qu'il a été quand même beaucoup plus difficile. À certaines époques de vivre qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte, nous on serait pas là en fait. On serait pas là. Non. La vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Cite-moi une période de l'histoire de l'humanité où ça a été cool de vivre. Non, il y a toujours des difficultés surréalistes. Après, la question est de savoir si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais ça, c'est une question philosophique. Que personnellement j'ai tranché et à laquelle j'ai répondu oui. Salut Damien Kervenik. Il y a Nalessi qui dit actuellement enceinte, j'ai pas forcément une situation financière de ouf, mais on va essayer de se faire une vie sans iPhone 16 et sans sac Yves Saint Laurent, je pense qu'on va tenir. Réparer les bêtises des anciens, c'est un peu fort de casser Escorvac. Les anciens en question, qui ont une lourde responsabilité dans l'état de la planète, c'est aussi des gens qui n'étaient pas forcément informés comme nous le sommes sur ces sujets. Et dis-toi que Escorvac et tous les autres, là, nous aussi, on est en train de faire des conneries, et nos enfants et nos petits-enfants, ils vont nous juger comme des beaux gros connards qui ont fait plein d'erreurs, parce qu'ils vont nous juger avec les valeurs et les connaissances de leur période. Et ils vont dire ce que toi, tu dis des anciens, la même chose de nous. C'est comme ça. Ainsi va l'humanité. Donc, ne pensez pas que vous êtes une génération bénie, les seuls qui avaient compris enfin quelque chose et que tous les gens qui vous ont précédé, c'était des débiles. Sache que tes enfants et tes petits-enfants auront le même regard sur toi. Tu seras aussi un homme préhistorique. Voilà. Mais t'en as pas conscience encore. Hein ? Trop facile de juger les anciens avec les connaissances d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pour ça que tes enfants et tes petits-enfants te penseront que t'es un homme de Cro-Magnon et que t'es complètement débile. Mais encore une fois, c'est vraiment un jugement personnel. GG, vous avez vexé Papy Sam, mais c'est tellement facile de juger les générations précédentes, hein, comme des petits Robespierre de pacotille, là, à la lumière des connaissances d'aujourd'hui. Hein. Comment ça, vous lisiez pas les rapports du GIEC à l'époque? Bah non, mais personne n'en parlait, ils ne savaient même pas que ça existait. C'est trop facile, c'est tellement facile. Vous inquiétez pas, vous aussi, vous serez jugé de la même manière par les générations qui vont arriver. Comment ça, vous regardiez pas Twitch avant? J'aime ça. Déjà, si on lisait les rapports du GIEC aujourd'hui, ce serait pas mal. Je voyais certains dans le chat qui estimaient que déjà des années 70 ont été au courant. Si déjà aujourd'hui on pouvait se mettre au courant, ce serait pas mal. Et on a déjà encore un immense effort à faire. Ah, alors on était où nous? Bon, pas mal ce sujet, hein. C'est à lire dans l'opinion. Hop. Parlons de Mark Zuckerberg. C'est Meta, c'est ça? Groupe Meta. Alors avant, lui, c'est un gars qui aimait pas trop Trump. Voilà. Et puis. C'était un peu un anti-Musk aussi, au niveau de le fact-checking, tout ça. Et voilà, Boubou. Ah, ben Boubou, il vient de résumer tout ce que j'allais dire. T'es chiant, Boubou. Il a retourné sa veste, exactement. Mark Zuckerberg se convertit au Trumpisme. Business is business. Hardcard dit il a baissé son slip. Je sais pas, j'étais pas là. Le patron du groupe Meta a acté un profond changement dans la stratégie de ses réseaux sociaux. Le revirement est aussi soudain que radical. Fin du fact-checking sur les plateformes de Meta. Donc, fact-checking, on va rappeler la vérification des contenus par des organisations indépendantes. Arrêt des politiques internes pour favoriser la diversité des employés. Finito. Et les sorties masculinistes. Merci beaucoup, Boubou, pour l'abonnement offert à Mel. La joueuse d'e-sport. Je crois bien que c'est ça. Merci, Pierre Arbet. Merci, Pokéball Bibi. Merci, Mr. Everyone. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, s'aligne en plus sur la philosophie de Donald Trump. Comme son ancien ennemi juré Elon Musk, il se lance en croisade contre l'idéologie woke, ça c'est nouveau, et la censure au nom de la liberté d'expression totale. On ne peut plus rien dire. C'est moi qui rajoute. Sur Facebook ou Instagram, réseaux sociaux du groupe Meta, les contenus et les débats sur les thèmes clivants comme l'immigration ou le genre ne sont plus modérés, a priori, mais agrémentés d'un système de notes de la communauté, c'est ce que fait... sur Twitter, pour les utilisateurs qui souhaitent ajouter du contexte. En vrai, les notes de la communauté, c'est plutôt bien en général. Ouais. Mais ce que dit le Parisien, c'est que c'est peut-être pas suffisant. Il y a 4 ans après les émeutes du Capitole, ce même Mark Zuckerberg bannissait pourtant Donald Trump de Facebook. Mais depuis, tout a changé et l'administration Biden va laisser la place le 20 janvier à l'administration Trump 2. Il va dans le sens du vent des États-Unis, alors que Meta se distinguait partout dans le monde de X par une vraie modération des réseaux sociaux. Sa décision relève de l'opportunisme politique et d'un suivisme, estime Julie Jacob, qui était une avocate spécialiste du numérique. Sans oublier les nouvelles perspectives économiques, c'est un mouvement stratégique intelligent, car cela va lui apporter plus d'engagement et de débats sur les réseaux sociaux de Meta, et donc plus de revenus publicitaires, complète Daniel Ive, analyste financier. Zuckerberg, pourquoi dit Zuck, adopte aussi un nouveau ton envers l'administration Trump, c'est un joli coup de poker pour sécuriser l'avenir de Meta. Dans un podcast de Joe Rogan, qui est un soutien historique de Trump, le patron du groupe californien a pourtant réfuté ce week-end les accusations d'opportunisme. Il dit qu'il n'est pas opportuniste. Il dit « Beaucoup de gens voient le changement de la modération comme un mouvement purement politique à cause du timing. Mais nous avons pris le pouls de la population post-élection et cela fait longtemps que je pense à faire cette bascule qui sera durable. » Donc il dit qu'il n'est pas opportuniste, mais qu'il a pris le pouls de la population après l'élection. Et qu'en fait, il y pensait depuis longtemps. Mais il n'est pas opportuniste. Ok, il se fout de notre gueule. Le rapprochement est aussi physique, puisque Zuckerberg s'affiche désormais comme le grand ami de Donald Trump. Il a dîné avec lui en novembre et fait un don de 1 million de dollars pour la cérémonie d'inauguration du 20 janvier et nommé plusieurs de ses alliés à des postes clés. Le patron de Meta était d'ailleurs de nouveau vendredi à Mar-a-Lago, la résidence privée du futur président. Avec Elon Musk et Jeff Bezos, le fondateur de Facebook entre désormais dans le club des patrons de la tech, fans de la nouvelle administration. Les dirigeants font allégeance à Trump, pas aux républicains conservateurs, car il incarne une conception hyper-libérale et quasi-libertarienne de la société et de l'économie, met en perspective Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur à la Sorbonne. À rebours souvent de ses propres employés, les ingénieurs de la Silicon Valley votent démocrate en général et sont imprégnés de la culture d'ouverture des grandes universités. Meta va d'ailleurs délocaliser, comme Tesla ou SpaceX, une partie de ses équipes au Texas, le fameux Texas. Un État plus conservateur où Trump a recueilli plus de 56% des voix lors de la présidentielle. Business is business. Voilà. À mon humble avis, Trump lui a mis un gros coup de pression et il n'a pas trop le choix, estime Cyril. Peut-être bien. Le Texas aka le Mordor. Joli. Je vous lis. Pardon pour la gorge. Je retourne ma veste toujours du bon côté. C'était qui ça? C'était comment il s'appelle? Ah, ce grand chanteur là, incroyable. Dutronc. Voilà. Je ne suis pas opportuniste, j'ai juste sauté sur l'occasion. Enki, exactement. Je ne suis pas opportuniste, je suis le sens du vent. Aucun rapport, Craven News. Il n'est pas opportuniste, mais il a saisi l'opportunité, Numa. Après, c'est un businessman, dit Aldan Effect, on ne peut pas lui en vouloir de chercher à maximiser son activité. Il a pas envie. Oh, jolie expression de Astro qui dit « Il n'a pas envie de pisser face au vent. » Ok. Pas mal, joli. La Moulbite qui dit « Après, si on avait le business de Zuckerberg, on ferait quoi à sa place? On laisse couler son business. » Question. Débat. Je pose la question, je lance le débat. Qui pisse dans le vent se rince les dents, buveur de pinte. Ça s'épingle, je ne connaissais pas ça. Qui pisse dans le vent se rince les dents. J'épingle, c'est épinglé ça. C'est joli, c'est salué. Ah, il y a Tabs qui la connaissait aussi. Ok, je ne connaissais pas. C'est cynique, mais c'est comme ça. Alasta Carole nous dit j'ai envie de quitter les réseaux, je suis une personne trans, me faire traiter de malade mental, non merci, mais quitter Instagram et WhatsApp, c'est très difficile. Comment quitter des réseaux quand tout le monde est sur les réseaux? C'est la bonne question. C'est très compliqué. Moi-même, je suis pas un fou de ce qu'est devenu Twitter. C'était déjà grave avant, mais c'est devenu pire. Et pourtant, c'est un outil de communication qui est essentiel, notamment dans ma situation, quoi. Allez, on termine avec un truc un peu plus léger. Est-ce que c'est l'heure d'aller chez le médecin? Parce qu'à mon âge, ça va chez le médecin sans arrêt. Hein. Non, ça va encore. Ah, il y a Bruno qui m'a appelé, j'avais loupé ça. Faut que je regarde. Attends, je prends mon agenda numérique en papier. Alors, attends. Quel jour sommes-nous? Déjà l'âge, c'est quel jour sommes-nous? Quel mois? Quelle année? Tu vois, ça ne vieillissez pas, les gars. Je sais plus. On est mardi, c'est ça? Il reste un article. Hein. 13h30. Ouh, mais 13h30. Oh, ben on est large. Mardi 14 janvier. Mais quelle année? 2025? 13h30. Je vais mettre un petit réveil à 13h. Mon amoureuse, comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin? Est-ce que tu as eu tes résultats? Tu vois, c'est vraiment, c'est ça d'être marié à un vieux. Hein. C'est pas facile tous les jours. Hein. Tous les matins, elle met mon petit déambulateur dans l'entrée de l'appart pour que j'aille au studio de stream. C'est trop mignon. Je l'accroche maintenant avec un antivol devant la porte de l'appart. C'est plus simple que de le rentrer. Comment ça, mon anniversaire? Blast Drogon, 14 janvier, ton anniversaire? T'es épinglé. Bon anniversaire. Après, quand tu présentes une question pour un champion, t'as des prix. T'as des prix sur les montes-escaliers. Les déambulateurs, tout ça. Merci pour tous les bons anniversaires. Puis je vois, c'est le fou le nombre de personnes qui sont nées le 14 janvier. Incroyable. La moitié du chat. Fou ça. La douche adaptée aussi, ouais. J'ai une douche avec une petite porte là. C'est pratique. Bon, à la base, c'est pour ça que je présente question. Bon, un dernier petit truc, c'est un peu technique. C'est la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT. On va pas en faire un fromage non plus. L'ARCOM, l'autorisation de régulation des médias audiovisuels, a donc dévoilé hier les nouveaux canaux attribués à une dizaine de chaînes de télévision. De quoi satisfaction? Provoquer satisfaction et colère au sein du PAF, parce que tout le monde n'est pas content. Pas de chamboule-tout, mais un chambardement historique. Ce lundi après-midi, le régulateur de l'audiovisuel, l'ARCOM, a officialisé devant la presse la nouvelle numérotation des chaînes de télévision gratuites françaises. Donc c'est la TNT, une dizaine de changements du côté de la télécommande. Pour ceux qui regardent encore la télé, bien sûr. Adios TPMP, ciao me dit Screeny Dragon, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? C'est la conséquence du dernier appel à candidature pour la TNT organisé l'an dernier par l'ARCOM, marqué par l'éviction de C8, la C8 où il y avait Cyril Hanouna, et Énergie 12, et l'arrivée de deux nouvelles chaînes, OFTV. Personne ne voulait me croire que le nom de code de la chaîne de Ouest France, c'est OFTV, littéralement la chaîne OnlyFan, voilà. Et oui, vous voyez, je ne l'ai pas inventé. Et CMI-TV, voilà, donc deux nouveaux diffuseurs. Qui vont bientôt arriver sur le... OFTV, je pense que c'est un nom de code, ils vont peut-être pas le garder. Mais comme je vous l'ai expliqué, je garderai le nom, ça va amener du monde. Qui a aussi conduit à l'abandon par Canal+ de son Canal 4. Canal, hein, ils étaient un peu fâchés, ils ont dit « Ah, vous retirez la fréquence à C8, et ben nous, on se retire de la 4, on vous le rend. Ciao, messieurs les censeurs, au revoir. » Pour faire des économies, le groupe de Vincent Bolloré décide de ne plus émettre que dans les bouquets des box ou via les téléviseurs connectés. Autant de trous à boucher pour l'institution présidée par Roch-Olivier Maistre, président de l'ARCOM, que nous avons reçu dans un stream ici, c'est en replay, sur ma chaîne YouTube. Au nom de la simplicité et du pluralisme de l'information, l'ARCOM a d'abord acté le regroupement. Quoi ? Le regroupement des quatre chaînes d'information. Avant, vous aviez BFM et CNews, et puis très loin en numérotation, vous aviez LCI et France Info, ce qui n'était pas très cool pour les deux, en fait, puisque plus vous êtes loin, voilà, plus pour une partie de la population, c'est compliqué d'aller vous chercher. Et donc, vous aviez deux qui étaient très devant et deux très derrière. Pour France Info et LCI, c'était un petit peu dur, ce qui explique en partie leurs audiences plus faibles que les deux autres. Et maintenant, il y aura un bloc de 4 avec BFM et CNews qui auront la 13 et la 14. Aujourd'hui, c'était 15 et 16. Et juste derrière, LCI et France Info, 15 et 16, alors que LCI et France Info étaient 26 et 27. 27, je connais bien parce que j'ai travaillé plusieurs années pour France Info. Je présentais la matinale. Alors, LCI, ils sont très contents. Voilà. France Info, je suppose aussi. Voilà. BFM, ils sont moins contents. Voilà. Alors, c'est marrant d'ailleurs. Parce que si la numérotation des chaînes n'avait aucun impact sur l'audience, bah, personne ne râlerait. Et pourtant, vous avez BFM qui râle. Hein. Dans un communiqué, BFM dénonce une décision arbitraire de l'ARCOM. Hein. Alors même qu'ils ont gagné des rangs. Mais la concurrence, elle est avec eux maintenant. Et ils râlent. Ça montre bien qu'ils pensent bien qu'il y a un lien entre la numérotation et l'audience. Quoi. Donc France 4, ex numéro 14, passe numéro 4. Donc là, c'est vraiment c'est le grand gagnant quand même. Hein, puisqu'il récupère la fréquence de Canal+. Sur la 8, fini Baba. Donc, comment il s'appelle, Cyril Hanouna, et place à Rambob INA, Institut National de l'Audiovisuel, puisque c'est plus C8, c'est les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat, qui étaient sur le numéro 13. La 12, c'est qui maintenant? La 12, c'est Gulli, média jeunesse du groupe M6, qui gagne 6 places. Ok. Et puis, le mini Big Bang du jour profite à ces deux nouvelles chaînes qui vont arriver bientôt. Donc, ce sont des noms de code, hein, CMITV, mais ça ne s'appellera pas comme ça, et OFTV, ça ne s'appellera peut-être pas comme ça. Voilà. Et donc, elles vont arriver au numéro 19. Non, 18 et 19. Voilà. Bon. Rien de fou, hein. Bah, c'était des petites infos, quoi. Voilà. C'est qui le concurrent principal de BFM? Aujourd'hui, en audience, c'est CNews. En 1, BFM. CNews 2, mais CNews est quasiment en train de passer devant. Ils se tirent la bourre, les deux. En 3, t'as LCI. En 4, t'as France Info. Excusez-moi, j'ai vu un message qui m'a piqué les yeux. Ouest France, c'est pas de l'info? Non, défécateur officiel. Ouest France n'a pas. Ouest France, c'est un journal d'information, mais Ouest France n'a pas prévu de faire une chaîne d'information. Ouest France a prévu de faire une chaîne généraliste, où il y aura peut-être de l'info. Mais ce sera une chaîne généraliste avec du divertissement et plein de choses, quoi. Tellement inutile d'avoir revu les canaux comme ça. Bah oui, Miss Tinguette, t'as raison. Hein, les chaînes qui ont été virées, qui n'ont plus de diffusion, on va laisser le canal vide. Hein, quand tu mettras la 8, t'auras juste du noir. Ah mais pourquoi? Attendez, t'imagines le touriste en France qui se balade, il est dans l'hôtel et tout, puis il met les chaînes, il dit « Ah bah la 8, il n'y a personne ?» Non, non, parce que la chaîne, elle est partie en fait. Mais vous n'avez pas mis une autre chaîne à côté? Ah bah non, non. Il y a Miss Tinguette 24 qui a dit que ça servait à rien. Ah bon? Ok. Bah non, les gars. Bon, alors il a fallu mettre ma chaîne Twitch, quoi. Ouais, on supprime le 8. C'est ce que dit. Lrunet28. Voilà. On supprime le 8 en France. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. C'est pas mal ça aussi. Je n'avais pas pensé en vrai. Pas con. Est-ce que tu penses que France Info et LCI vont gagner en audience? Est-ce que ça va ralentir la montée du RN avec CNews? Je ne sais pas si CNews favorise la montée du RN. Je pense qu'ils surfent sur un peu sur ça. Alors après, quelle est l'influence des médias sur l'opinion des Français? Je ne sais pas. C'est un sujet compliqué. Par contre, sur la première partie de ta question, est-ce que tu penses que France Info et LCI vont gagner en audience? Oui, en général. Quasi sûr. Mécaniquement. Est-ce qu'on peut faire un stream à la télé? Non. Rage quit. évidemment, puisqu'il n'y a pas le chat, donc ça n'a aucun intérêt. Ou mais Jean Massier. Je vous lis. Oh, Samuel 8, tienne, 8, 8, tienne, sur la 8. Samuel 8, tienne. Samuel 8, tienne. Pas mal, ça. J'adore, j'aime. Ah. Vous avez vu? C'est un miracle. À l'époque, je pouvais plus faire ça parce que j'avais ma tendinite au bras droit. Et puis, elle est en train de s'en aller très doucement. C'est très lent. J'ai déjà eu des tendinites à l'épaule. J'avais jamais eu ça, moi. Hein? Putain, c'est en train de s'en aller, mais ça met des mois, quoi. C'est quand même une carrière de champion de MMA, moi. C'est mon petit Solal qui... Oh, mon petit Solal est à la maison. Oh, attendez, mon petit Solal qui... Il est trop chou. Je vais filer, je vais aller le voir. Parce que j'ai rendez-vous à 13h30 à la maison, mais du coup, je pense qu'il est à la maison pour déjeuner. Je vais passer. Comment tu fais pour tenir? Rien. J'attends que ça passe. Ouais. Non, c'est pas le tennis, c'est mettre des têtes sur Valo. J'ai trop joué. Puis une mauvaise position, sans doute. Voilà. J'en ai une à la hanche depuis 4 mois, ça part pas vraiment. Défi physique à venir? Ouais. Effectivement, j'ai prévu une carrière de MMA. Bah, le stream, ça va pas durer 107 ans, hein. À un moment, vous lasserez de mes blagues de daron, là. Ouais. Antidouleur? Bah oui, on m'en a proposé, mais j'ai pas voulu les prendre parce que ça sert. Moi, ce que je voulais, c'est guérir la tendinite. C'est pas la douleur qui m'embêtait. La douleur, c'est le signe de quelque chose qui ne va pas. Mais non, non, en plus, ça abîme l'estomac. Non, non, j'ai rien pris. Les blessures deviennent lentes à soigner, passé 150 ans? Sérieux, quoi. Tu étais tellement fort qu'il fallait te nerf. Je t'épingle, mon chouchou. C'est trop gentil, ça. Ah, je peux pas t'épingler, zut. Tu veux un peu à la muscu? Non, mais par contre, j'ai la salle où je vais courir. Il y a un monsieur très gentil qui m'a dit à ton âge, putain, c'est fou. À ton âge, tu sais, ce dont il faut se préoccuper, c'est la masse musculaire parce que c'est ça qu'ils font. Il n'a pas dit, mais chez les vieux. Et donc, il faut que tu n'hésites pas, il faut que tu commences à faire un petit peu de salle. Moi, j'ai jamais fait de ça, moi. Tu fasses un petit peu de trucs et tout, je te montrerai. Bon, voilà. Eh ouais, le regard des gens change. Hein. Là, dans la rue, maintenant, tu sais, on me propose de porter mon sac, on m'ouvre les portes et tout. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Si vraiment c'est dérangeant, tu peux faire les infiltrations. Alors, j'en ai fait une. Moi, j'ai de l'arthrose dans la nuque, là, au niveau des cervicales. Donc, à une époque, ça m'a vraiment fait très mal. Et c'était... Là, ça va mieux depuis que j'ai arrêté la moto, tout ça. Je pense le port du casque, la bécane, tout ça. Le vent, enfin bref, je pense que ça devait jouer un petit peu. Puis je fais un peu moins de sport aussi et j'ai beaucoup moins mal au cervical. Mais à une époque, on m'avait proposé de me faire des infiltrations dans les cervicales. Là. On m'avait dit, ça fait pas mal. Bande d'enculés! Ça fait pas mal? Là? Ah si! Si! Si, si, je l'ai senti! C'était une autre époque, c'était à 3-4 ans. C'est très douloureux. Il dit, non, il m'a mis un patch, une connerie, là. Putain, là, l'aiguille était comme ça, elle était grosse comme le doigt. C'est des malades, les gars. Et ça m'a rien fait. Ça fait pas mal au médecin. Ouais, ça m'a rien soulagé. Donc ça, les infiltrations, ça marche pas sur tout le monde. Ouais. Porter ton sac ou t'ouvrir la porte, c'est parce que les gens veulent te pécho, pas parce que tu es vieux. Ah ouais, ça fait super mal. Là, jamais. Après, il y a une opération. Une opération, là, je sais pas pour eux. Là, ils ouvrent, là, je sais pas par où ils ouvrent. Là, et le chirurgien qui faisait ça, il me dit, alors, moi, c'est un truc, une opération que je fais, et je la fais plutôt bien. Par contre, il y a un pourcentage où parfois on touche les cordes vocales. Ah bon? Et alors il se passe quoi? Bah vous parlez comme un robot toute la fin de votre vie.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le stream de Sadolitude. Comment ça va aujourd'hui?
Mais qui me dit ça? Au calme. Voilà. Donc il m'a dit, c'est une opération, j'évite de la faire parce que... il me dit, à ce jour, j'ai jamais touché les cordes vocales. Mais un jour, je le ferai. Ok. Donc, du coup, on n'a pas fait l'opération encore. Il m'a dit, c'est vraiment le jour où vous avez super mal. Vous n'en pouvez plus. Là, ce jour-là, si vraiment vous êtes kéblo de la tête, peut-être qu'on en verra. Donc, si un jour, j'arrive un matin en mode robot, en Cyber Samuel, effectivement, eh bien, vous saurez que c'est parce que je me suis fait opérer des cervicales. Bon, j'arrête de parler de ma santé, on en a marre, je suis vraiment un petit vieux, quoi. On va faire un raid maintenant. Qui est en live, là? Je vais avoir mon petit garçon. Alors... Oh, y a pas grand monde, là. Ok. Hey, cet après-midi, je vais vous lancer un petit valo. Hein. Comment ça, Joe est en live? On voit ou pas? Je le vois pas. Ah si, il est en live. Il est sur quoi, mon Joe? Là, Joe? Je suis pas content. Il est sur TFT. Joe, il se bute sur TFT. Let's go. Moi, je vous retrouve ce soir pour The Forest, un jeu que je vais découvrir, que je vais streamer avec Anae et Sunday. Ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé tous les trois. 20h30, je pense. Et là, je retourne chez le médecin, sur un autre médecin en début d'après-midi. Et après, je vais lancer un petit stream Valo cet après-midi, je pense, pour me détendre un petit peu. On va essayer de découvrir le nouveau perso, là. Terro. Terro. Tiens, on va voir Joe, il joue à TFT. Il est où, mon Joe? Hop. 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 Pourquoi ça ne marche pas? Là. Hop. Je n'ai plus fait un raid. Et merci à tous. Merci au Modo. Merci la commu. Merci tous les soutiens. Merci les subs. N'oubliez pas. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, à activer les notifications, à suivre la chaîne YouTube, à tous les replays, la chaîne TikTok aussi, où je dis plein de bêtises. Et je vous retrouve cet après-midi, je pense. Ou au plus tard ce soir. Peut-être un triple stream. On va voir Joe. Merci pour ce matin, c'était bien cool. On a bien rigolé. Bye bye.